Gameblogueuses, gameblogueurs, bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast de la rédaction. Nous sommes le premier mercredi du mois et du coup, forcément, comme le veut la tradition de Gameblog, eh bien nous allons nous attarder et revenir, un petit coup de rétroviseur, le bilan du mois de mars 2011. 31 jours dans son actualité jeux vidéo. Bien évidemment, ça aura été marqué par la sortie de la Nintendo 3DS, qui constitue clairement l'événement majeur de ce mois-ci. On ne reviendra pas énormément dessus, car vous le savez, on a dédié un podcast entier à la Nintendo 3DS. Néanmoins, certains des jeux sont arrivés après ce bilan en podcast. Du coup, on reviendra sur certains titres dans ce podcast. Mais bien sûr, il y aura aussi, nous parlerons de la sortie de l'iPad 2 et de nombreuses news entre les annonces de Resident Evil Opération Raccoon City qui a été enfin dévoilée. Quelques informations peut-être sur GTA 5, Kinect qui marche toujours aussi bien, mais aussi énormément de tests avec Shift de Unleashed qui a créé un petit peu la polémique avec Crysis 2. Lui aussi, Homefront, Rift, Total War Shogun 2, Kamiden, Fight Night Champion, MotorStorm Apocalypse, Pilot Wings, Top Spin 4, Beyond Good and Evil qui est revenu en version HD, The Blob 2, plein d'autres jeux, mais les coups de cœur, les coups de gueule aussi de la rédaction de Gameblog, l'homme du mois, l'actualité de Gameblog, en gros, un podcast 179, gorgé, ras la gueule, et pour ça, eh bien, une bonne partie de la rédaction a répondu présent, avec Fumble. Ça va Fumble?
Salut, ça va bien. Enfin non, mais ça va quand même.
Un petit peu malade, c'est ça?
Oh, une fin de grippe et une allergie. Mais
très bien, c'est pour ça que je suis heureux d'être finalement physiquement assez loin de toi. Voilà, après. C'est donc Tiger qui tombera malade dans quelques heures.
Tout à fait.
Ça va Tiger?
Bah oui, pour l'instant ça va.
Pour l'instant ça va, très bien, on a besoin de toi parce qu'effectivement il s'est passé pas mal de choses, beaucoup de tests. On reviendra rapidement, hein, puisqu'une fois de plus on avait aussi dédié un podcast au Pokémon version noire et blanche.
Oui, avec notre ami Grégoire Hello.
Exactement, que vous pouvez réécouter bien sûr, podcast. Raon, ça va?
Ça va très bien, enfin non.
Ah bon, toi non plus?
Non, mais moi c'est que les allergies, pas la grippe, ça va.
Ok.
Mais bon, on fête le printemps en toussant, en crachant et en respirant avec des branches qui sifflent.
Tout va bien.
Quel
donc.
Poète.
Traz, toi tu louches hein, parce que tu joues beaucoup à la 3DS.
Exactement. Et en plus, je viens de récupérer le micro de Fumble là, je pense que je vais attraper plein de microbes.
Eh bien, c'est magique. C'est et Julo, bon, nous on est du bon côté, Julo, tu dois.
J'allais le dire, ouais, je suis du bon côté du canapé, donc ça va.
Les Juliens sont toujours dans les bons plans. Allez, on va commencer directement avec, vous le savez, l'actualité de Gameblog, le petit point sur qu'est-ce qui s'est passé sur le site au mois de mars 2011. Alors, premièrement, eh bien, on a lancé un nouveau système de tests. Ce sont des tests zapping, c'est-à-dire des tests finalement assez courts que l'on dédie à de nouveaux styles de jeux qui arrivent testés désormais sur Gameblog, à commencer par exemple par les jeux sur téléphone portable, donc sur plateforme iOS comme Android.
Oui, ça ne sera pas seulement des jeux iPhone ou des petits jeux comme ceux-là. Il se peut qu'on réserve des zappings à certains jeux comment dire, de 3e, 4e ou 5e zone. Si on juge qu'effectivement il n'y a pas besoin de s'étendre 30 000 ans dessus pour donner un avis pertinent. Et puis ça nous permet nous de tester en fait plus de jeux tout bêtement et puis donc de donner un verdict sur des choses qu'on ne traitait pas auparavant. C'est pour ça aussi que vous avez vu que certains des tests qu'on a publiés d'abord sous ce format là étaient des jeux qui sont sortis d'assez longue date sur iPhone. On a fait un petit melting pot des jeux qu'on préférait, auxquels on avait le plus joué pour pouvoir en parler quand même un minimum, ce qu'on n'avait pas fait avant, et puis ça va continuer dans les mois et les années à venir.
Les DLC aussi sont concernés, par exemple il y a eu le test de Julo, le test zapping du DLC de Castlevania, Reverie, dont nous parlerons dans quelques instants.
Tout à fait,
voilà.
C'est une forme idéale également pour les DLC qui sont pas forcément, on n'a pas besoin de s'étendre non plus des heures, étant donné que...
Certains durent une demi-heure. Donc
voilà, c'est ça. Et c'est le cas d'ailleurs de Rêverie. Voilà.
Donc voilà, c'est vous permettre d'avoir un avis encore plus complet de la part de la rédaction de Gameblog sur un éventail de jeux encore plus large. Et effectivement, pour ceux qui se disaient « Ah bah oui, mais parfois les notes sont un peu élevées sur ces tests zapping », c'est vrai, comme le disait Raon, que pour l'instant, on s'est aussi concentré sur le retard, parce que c'est vrai qu'on en avait sur certains jeux sur téléphone portable, les Cut the Rope, les Angry Birds, les Game Dev Story, mais qui sont des titres qui nous ont plutôt marqués, plutôt plus, et sur lesquels on voulait revenir dans un premier temps, mais d'autres styles de jeux et d'autres types de jeux seront testés sans concession dans les jours et semaines à venir. Autre petite annonce qui concerne directement Gameblog, si vous avez un iPhone, un iPad ou un iPod Touch, en gros une plateforme iOS, eh bien vous pouvez jouer avec Gameblog, c'est gratuit, totalement gratuit. Pour ça, il suffit juste, pendant encore quelques semaines, de télécharger l'application qui s'appelle Blind Test, c'est tout facile. Et comme le nom eh bien, le sous-entend, il s'agit d'un blind test de musique de jeux vidéo que la rédaction vous a concocté. Et c'est plutôt sympa, on peut jouer jusqu'à 4 en simultané.
C'est assez simple, hein, une petite appli, téléchargée gratuitement. Normalement, quand vous la lancez, vous la verrez tout de suite, c'est la playlist Gameblog. Hein.
Il faut appuyer sur le bouton Play au milieu de l'application.
Voilà, et puis après, bah, ça se déroule de manière très simple, hein, un extrait qui passe, et puis faut être rapide et trouver la bonne réponse. Donc c'est toujours rigolo, vous savez qu'on aimait bien les blind tests, on a déjà fait en podcast aussi pour se reposer un petit peu, hein, on va pas se le cacher. Mais donc il y a énormément de titres, je sais pas combien il y en a en tout.
50.
50, ouais. Donc il y en a certains qui sont assez faciles à trouver, d'autres moins, enfin vous verrez, amusez-vous, et puis de toute façon il y a un scoring, il y a un système de scoring, etc. Donc vous allez pouvoir comparer vos scores.
Exactement, l'application Blind Test est gratuite et la playlist de Gameblog est gratuite. Alors ce qui est moins, c'est l'abonnement premium, forcément, mais on vous en parle, on fait à chaque fois un petit point tous les mois sur cet abonnement premium qui vous permet d'avoir des avantages sur le site divers et variés. D'ailleurs, juste avant, on remercie bien sûr aussi Bulkypix qui nous a permis de mettre en place cette playlist Gameblog avec cette application. Mais pour revenir au premium, désormais on va vous tenir de plus en plus au courant de comment ça se passe, quelles sont les possibilités offertes par les premiums, quels sont les bonus auxquels vous avez droit. Il y aura des nouveaux concours qui vont arriver avec des vrais avantages premium. Bien évidemment, vous l'avez compris, tout le cœur de l'information de Gameblog reste bien évidemment gratuite et ça ne changera pas. En revanche, ce sont des petits bonus et il ne faut vraiment pas oublier que le premium, c'est avant tout un acte de soutien à Gameblog. On vous l'a déjà dit, on peut aujourd'hui vous le redire car c'est toujours une réalité, Gameblog n'est pas encore totalement rentable. Raon.
Bah oui, c'est pas de ma faute. Mais effectivement, voilà, on avance, on progresse, etc. Et les premiums, c'est mine de rien pas négligeable du tout.
Non.
Puisque pour vous donner un ordre d'idée, en fait, si on devait quantifier le nombre de premiums qu'il nous faut pour atteindre un point d'équilibre, on est à peu près pour le moment à 19% de notre jauge premium.
Exactement.
Donc on va essayer de la monter jusqu'à ce qu'on puisse lâcher la furie. Et pour ça, bah, on compte sur vous évidemment. Hein. Donc, on va introduire dans les semaines à venir des nouvelles choses autour des premiums, mais aussi sur le site lui-même. Vous avez pu voir aussi un petit changement cosmétique rapide sur la home, par exemple. On a mis en avant les impressions, c'est-à-dire les previews, comme on appelait ça avant, si vous voulez, directement sur la home. Et puis, il va y avoir d'autres petits aménagements à venir très bientôt. Mm-hmm. Et notamment sur les premiums. Voilà.
Exactement, on veut vraiment communiquer au plus près avec vraiment transparence avec vous pour vous dire exactement où on en est. Nous, on avance, mais c'est vrai que grâce à votre soutien déjà de ceux qui l'ont fait, nous aide forcément beaucoup plus à faire progresser l'aventure Gameblog et surtout lui permettre, on l'espère un jour, d'être rentable. Car sinon, il y a un moment.
Cool.
Non, mais parce qu'on en rit, on en sourit, mais c'est vrai que sans rentabilité, il y a un moment, la porte se ferme et la lumière. Lumière s'éteint,
le cercueil
voilà,
se ferme. Ouais.
Exactement. Et les gâteaux sont mangés, comme le dit Straz. Effectivement. Allez, on va continuer désormais sur l'actualité 100% jeux vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars ? C'est le retour de l'homme du mois que nous avons élu. Et ce mois-ci, nous avons décidé de saluer Monsieur Satoru Iwata, président de Nintendo, qui était en même temps, quasiment simultané avec un autre homme important, pas forcément que dans le jeu vidéo, même plutôt autre chose que du jeu vidéo, mais Steve Jobs, deux keynotes en simultané. Celle d'Iwata se tenait lors de la Game Developer Conference 2011, c'était le 2 mars dernier, et elle était vraiment intéressante car pour la première fois, on a véritablement vu la symbolique de ce que Nintendo disait déjà depuis quelques temps, que leur ennemi n'était pas Sony ou Microsoft, mais plutôt Apple. Raon.
Ouais, alors effectivement, ils n'ont pas été forcément nominatifs, ils n'ont pas...
Ils ont été très clairs.
Mais ils ont été extrêmement clairs. Et ce qui m'a touché, moi, en tous les cas, j'ai bien regardé les deux keynotes, etc., d'Iwata et de Jobs, c'est que Iwata, c'était pas sa première keynote de GDC, il en avait fait d'autres auparavant, qui était plutôt optimiste, toujours un peu porté sur un avenir un peu plus radieux, avec des nouvelles choses et des moyens de faire avancer le jeu vidéo. Et cette fois-ci, il avait l'air un peu plus. disons préoccupé quoi par par ce qu'il qualifie d'être comme étant une séparation entre finalement le jeu traditionnel tel que Nintendo le revendique, sachant que lui insiste bien sur le fait que Nintendo ce sont d'abord des créateurs de jeux et ensuite des constructeurs de machines, et puis l'apparition et l'élargissement et la démocratisation du phénomène du snack gaming sur les plateformes type App Store et Android Market dans une très moindre mesure, mais on a senti une sorte d'opposition dans sa façon d'exposer tout ça. C'est une keynote vraiment intéressante, elle est assez longue. Néanmoins elle est toujours disponible sur Gameblog et je vous conseille vivement de la lire, de la revisionner pardon si vous parlez anglais évidemment.
On a fait un résumé à l'écrit effectivement, mais voilà. On peut la voir en anglais en intégralité.
Après moi c'est comme ça que je l'ai ressenti dans cet article. Il y en a peut-être d'autres qui s'attarderont sur d'autres détails de sa keynote, mais il y a quand même une sorte d'opposition. Il a essayé vraiment de fédérer le tissu des développeurs mondiaux qui est toujours réuni à la GDC pour leur dire il faut qu'on continue à faire des contenus riches, précis, profonds, du vrai jeu.
Il a insisté sur le fait qu'avant, les développeurs, même s'ils étaient fondamentalement passionnés, etc., arrivaient à gagner leur vie avec le jeu vidéo à partir du moment où ils avaient une bonne idée, où ils le faisaient bien. Et il disait que finalement il y avait tellement peu d'élus sur les plateformes téléphoniques au niveau du jeu, et que finalement avec cet écrasement aussi des prix il devenait de plus en plus dur d'en faire un métier dont on pouvait en vivre, et que du coup ça pouvait aussi faire peser un risque sur l'industrie en général du jeu vidéo.
Ça peut prêter à sourire de la part de Nintendo de dire est-ce qu'on vivra demain de notre passion d'il y a 20 ans. Mais néanmoins en tous les cas le fait que un type aussi important dans le jeu vidéo pose cette question, c'est pas innocent quoi.
D'autant que quelques jours après, Reggie Fils-Aimé, donc lui de la branche américaine de Nintendo, a lourdement insisté à la fois sur le fait que Nintendo ne voulait pas de développeurs de garage, donc en gros des petits développeurs à deux ou trois qui font un jeu vite fait, etc., mais qui peut être génial. On sait que Tiny Wings est en train de cartonner sur iPhone, a été fait par une seule et unique personne, et pourtant il en vend 60 000 par jour. Faites le calcul à 0,79€. Mais c'est vrai que ce sont des exceptions, c'est-à-dire c'est ceux qu'on voit, c'est la partie émergée, mais on sait qu'il y a plus de 400 000 applications. Parmi ces 400 000 applications, combien sont véritablement rentables et combien de personnes vraiment en vivent ou deviennent milliardaires ou millionnaires en tout cas, c'est finalement assez peu. C'est une réalité.
Ce qui est certain en tous les cas, c'est qu'il y a un sentiment partagé par tous les développeurs et par l'industrie en général qu'on est à un virage important et que l'industrie et le milieu du jeu vidéo est en train d'un peu de bouger, d'intégrer des nouveaux types de jeux, des nouvelles consommations, des nouvelles distributions, et ça s'affirme de plus en plus d'année en année.
Et pour les consommateurs, prendre l'habitude de télécharger des jeux légalement à 79 centimes, c'est quand même, ça rentre vite dans les mœurs, alors que acheter ou continuer d'acheter des jeux à 40 ou à 70€, c'est quand même pas le même style d'engagement et d'investissement personnel.
C'est ce qui fait qu'il faut que ces jeux-là se démarquent, quoi.
Exactement.
Il faut qu'ils aient vraiment quelque chose d'autre à apporter, et c'est pas forcément toujours le cas. Mais si ça peut faire le tri de ce côté-là aussi, pour qu'on ait pas des jeux qui se foutent de nous à ce prix-là, pourquoi pas.
Julo, tu veux réagir?
Non, juste à noter que Iwata a quand même annoncé Super Mario également sur 3DS pendant sa keynote.
Effectivement,
avec une espèce de petite queue de Tanuki, pardon, qui rappelle un peu Super Mario Bros 3.
A priori, Mario va pouvoir s'envoler sur 3DS.
Moi, j'aimais bien ça.
J'adorais Super Mario.
Moi, je préférais la cape dans Super Mario World. Je trouvais que c'était avec une espèce de rebond comme ça dans vol.
La
casquette rouge de, la casquette
avec les ailes de Mario 64.
Bon, c'est pas une très grande surprise de voir Mario débouler sur une console Nintendo, mais au moins voilà, il est confirmé. Voilà.
Mais voler en 3D relief.
Ça peut être cool quand on va appeler le Twings et tout. Exactement. Ça peut être cool.
Donc voilà, notre homme du mois, c'est monsieur Satoru Iwata qui a parlé avec franchise après, et on l'a vu dans le forum de cet article, que vous avez été très nombreux à réagir, certains à adhérer à ses propos, d'autres à les entendre avec un regard un petit peu différent. C'est ça qui est intéressant aussi, confronter vos opinions, toujours dans le respect et le calme, mais c'est vrai que en tout cas monsieur Satoru Iwata marque, je trouve que c'est un peu l'an 1 de quelque chose de peut-être nouveau pour une vision de Nintendo. Et
dans tous les cas, il y avait une façon de parler, d'englober avec lui Microsoft et Sony pour leurs apports respectifs à l'industrie qui était
il a quand même félicité la puissance de Call of Duty pour le online, etc.
Microsoft pour la mise en place du Xbox Live.
Exactement,
etc. Donc il essaye vraiment de créer
tous ensemble
pour moi.
Contre Steve,
c'est la sensation que j'ai eu moi en tout cas.
C'est ça, le verre est dans la pomme. Allez, on va passer à nos coups de cœur et nos coups de gueule, et puis justement on va commencer par les coups de gueule parce que c'est plus rigolo. Et on va commencer par monsieur, un autre Steve Pop. Il est thérapeute et il s'est littéralement lâché sur l'antenne de la BBC Radio 5 Live Je vous donne en substance, je mets les guillemets, je cite Steve Pop, en termes d'excitation produite sur le cerveau, passer 2 heures sur un jeu vidéo est l'équivalent d'une prise d'une ligne de cocaïne. C'est le mal insidieux de notre génération. Et là, tout de suite, sans transition, un micro à Fumble. je sais pas pourquoi, je suis sûr que t'as plein de choses à dire.
Tu fais un lien entre cocaïne et moi, je ne comprends pas.
C'est pas tout, forcément sur la cocaïne, mais je suis sûr que Steve Pop te fait réagir.
Ouais, je suis assez d'accord avec lui en fait. Parce que...
voilà, tu vois, je savais.
Moi, je me suis rendu compte, par exemple, sur le test de Shogun 2, mm-hmm. et j'en ai parlé dans le test, c'est que j'avais quand même 42 fièvres, ouais. Et j'étais à fond dans le jeu, je pouvais pas le lâcher, quoi. Mm. Et je me suis rendu compte seulement à la fin du jeu que j'étais complètement malade, quoi. Je suis allé me coucher.
Et donc, quand t'as arrêté de jouer,
le jeu vidéo en général, ça soulage du sommeil,
c'est stimulant.
Ça fait oublier tes problèmes.
Et donc,
c'est largement mieux que de la coke, à mon avis.
En bon journaliste, derrière, t'as fait un comparo avec une bonne ligne de coke pour vérifier si c'était le même stimuli.
Toujours.
Bien sûr, forcément. Bien évidemment, chez vous, vous comprenez qu'en plus, nous enregistrons le 1er avril et que ce sont des blagues. il ne faut pas faire ça chez vous. Mais quand même, à dire ça en termes d'excitation, c'est la même chose. Tu vois, il est l'équivalent. Il dit c'est le mal insidieux de notre génération. Est-ce que ça va pas juste. C'est un peu dément quand même.
Ah mais tu me demandes en fait en tant que spécialiste du troll de...
Ah oui, c'est pour ça que je voulais te donner le micro.
Oui, c'est juste un gros troll, ça
c'est un peu pathétique.
Ça n'a aucune base scientifique et ça veut absolument rien dire. Donc,
C'est même prouvé, il y a eu des études, enfin alors pas comparer la cocaïne et le jeu vidéo bien évidemment, mais...
La façon dont ça stimule le cerveau.
Exactement.
Là j'avoue que j'ai pas trop creusé sur les IRM
pas tant là-dessus mais sur le fait que est-ce le mal insidieux de notre génération
le jeu vidéo, mais c'est évident bien sûr,
c'est ça, bah oui, tous aliénés,
les mangas et tout ça aussi,
oui,
les
mangas, les meporg, les jdreux aussi,
et avec Fox News évidemment,
c'est ça, je pense qu'il a fait un partenariat Fox News,
ils sont à mettre dans le
même, ah oui, parce que Fox News qui disait quand même le mois dernier, rappelez-vous, que le jeu vidéo
incitait au viol,
voilà,
que il y avait un spécialiste effectivement qui était interviewé dans une émission donc de la chaîne, mm-hmm. américaine bien connue, et qui disait qu'effectivement statistique à l'appui, il y avait plus de viols quand tu jouais aux jeux vidéo, mm-hmm. avant que quand tu jouais.
Mais faisons un rapide décompte, moi je dis combien de viols à ton actif?
Une vingtaine.
Ok,
il y a des gens qui vont le prendre.
Uniquement les êtres humains, hein.
Le podcast comme ça, c'est mon premier podcast, j'écoute. Qu'est-ce que ce sont des grands malades.
Ah, on peut bien déconner un peu. Non, évidemment qu'il n'y a aucune corrélation entre ça. Donc, c'est du grand n'importe quoi. Pour moi, c'est du niveau de Fox News qui raconte des conneries.
C'est quand même vachement intéressant parce que s'il y a véritablement 42% des joueurs qui sont des femmes et mm-hmm. qu'elles sont elles aussi sujettes à les violer des hommes.
Ça te fait envie, hein.
Bah, c'est oui, honnête, c'est vrai. Du coup, tu vois, si seulement c'était vrai.
Exactement.
Enfin, tout ça pas. Est bien triste d'entendre 2011 des tels des propos qui n'importe quoi. Alors d'autres propos, là on était en Angleterre, on va partir aux États-Unis et on continue dans les coups de gueule avec d'autres déclarations. Alors là c'est monsieur David Jaffe à qui l'on doit le gameplay du premier God of War,
les deux premiers God of War
qui travaille actuellement sur le prochain Twisted Metal. Et alors David, visiblement c'est un nom de personne qui aime bien s'exprimer et balancer des grandes phrases, David Jaffe, lui il dit la presse en fait trop sur les jeux artistiques, et puis derrière il balance un petit peu à l'emporte-pièce en disant oui mais Flower, enfin il le cite pas totalement mais ce genre de
ouais,
jeu
il parle d'un jeu où on joue le vent dans les
voilà,
fleurs.
J'ai la citation
alors,
exacte
alors Tiger
donc il
Alors, rends-lui son papier.
Ce n'est pas parce qu'il y a du vent, une bande son minimaliste, de vastes espaces à explorer et un rythme lent que le jeu auquel vous êtes en train de jouer est de l'art.
Ça, je suis d'accord.
Oui.
Donc, évidemment, là, il tacle Flower. Et moi, je suis d'autant plus d'accord avec lui parce que je trouve que finalement, il n'y a pas vraiment matière à polémique. Je trouve qu'il enfonce des portes ouvertes, en fait. Parce qu'après, il explique que ce n'est pas parce que l'histoire et la forme d'un jeu empruntent des éléments que l'on peut voir dans des films pour grands garçons que ce jeu est pour autant adulte ou qu'il permet aux médias de mûrir. Ouais. Donc, finalement, je trouve que c'est plutôt bien qu'un mec qui a quand même un certain CV avec les God of War et tout. Remettent aussi certaines choses à leur place, même si ça peut faire bondir. Je pense pas non plus qu'ils soit de, totalement bourrin et qui ne veuille pas de jeux artistiques, mais c'est vrai que maintenant...
C'est pas un mec super fin quand même à la base. Hein.
Bien sûr, mais...
Bah, God of War et Twisted Metal, si oui, veux, ouais.
Non, mais c'est vrai que ça soit avec l'émergence de la scène indé, il y a un peu un syndrome pervers, à mon sens, par rapport aux jeux qui se voudraient artistiques. Mm-hmm. C'est de voir justement de l'art dès qu'il y a un truc un petit peu différent.
Ça, je suis pas d'accord.
Un traitement d'image un peu plus ambitieux. Et finalement, c'est dénigrer pas... des jeux vidéo très classiques qui sont vraiment des jeux à score ou des jeux où on se défoule et voilà.
Je crois pas qu'il mentionnait pas que la presse dénigrait des jeux classiques. Il disait...
Ah si, si, il en parlait clairement.
En tous les cas, ce qu'il disait surtout, c'est que tout le temps et les unes qui sont consacrées à des jeux qu'on va dire arty, un petit peu à tendance arty, et c'est un temps que c'est une exposition médiatique que n'emploient pas les jeux traditionnels et des budgets du coup qui se retrouvent aussi affectés à des productions qui ne vont finalement pas vendre.
Et là-dessus, je suis pas totalement d'accord quand même, parce qu'on peut pas dire qu'on parle peu, alors là on va prendre le cas de Gameblog, mais des autres médias, d'un Call of Duty, d'un God of War et compagnie.
C'est ce que j'allais dire, parce que quelque part il s'adresse directement à nous en fait. Mm-hmm. Donc nous on parle des jeux qui se différencient de la masse, et donc c'est ça le problème, c'est qu'on parle de ces jeux en fait. Et donc c'est ça que je trouve scandaleux dans cette déclaration. Bien heureusement, enfin ça fait quand même des années que on tourne en rond dans plein de genres, etc. Quand on a quelque chose de rafraîchissant, que ce soit des jeux sur le XBLA, que ce soit Flower ou que ce soit autre chose, bah c'est normal qu'on en parle et qu'on fasse valoir les différences de ce jeu-là.
Et puis pour
quelque part, c'est
choses,
ça qui fait. Alors effectivement, c'est ça qui va faire un buzz à un moment donné. Et où est le mal là-dedans, quoi? God of War, on en a parlé, on parle de tout, et on, alors peut-être qu'on en fait trop, je sais pas, moi je crois pas. Mais dans tous les cas, je continuerai à aimer
Flower,
de parler, et d'en parler surtout, de parler de ces jeux artistiques. Après, que ce soit artistique ou pas, on s'en fout, hein, t'as un avis, j'en ai un, tout le monde en a un. Mais continuer à en parler, évidemment, quoi. Voilà.
Et même les défendre, parce que
désolé,
finalement, c'est
David.
Quelque part, c'est nous, notre opinion à Gameblog, c'est qu'on bien évidemment qu'il faut parler des God of War, des Twisted Metal, des Call of Duty, et je crois qu'on le fait clairement et abondamment. Néanmoins, il est important aussi d'apporter un soutien lorsqu'on est touché, peut-être un peu plus, par des jeux dont on sait qu'ils n'auront pas la couverture médiatique ou l'aide en termes de marketing. C'est aussi notre rôle, en tout cas c'est ce qu'on pense à Gameblog, d'aider ces plus petits jeux à avoir obtenir une petite reconnaissance, une notoriété, et peut-être attirer le regard de personnes qui seraient totalement passées à côté dessus. Et donc quand on entend la presse en fait trop sur les jeux artistiques, non, vraiment pas.
Surtout qu'on est les premiers à critiquer quand il y a toujours un peu les mêmes jeux, les mêmes suites qui arrivent, enfin qui reviennent année après année, mois après mois. Donc c'est bien effectivement, comme tu dis, de mettre en avant des titres qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui sont d'ailleurs plutôt bien foutus. Parfois en termes de narration ou même tout simplement de niveau de l'originalité, quoi, tout simplement.
Mais il disait pas.
Après moi je comprends son point de vue effectivement où il a peut-être l'impression que parfois on est un peu trop sur la hype, le buzz, etc. sur des titres qui en valent pas forcément la peine. Et
mais il y en a pas tant que ça.
Il y en a pas tant que ça
parce que sur les dernières années on listerait quoi? On listerait un Braid, un Flower, Fumble qui nous a fait découvrir That Was Yesterday, qui est vraiment un super jeu, qui en plus est gratuit. En l'occurrence, on n'en a pas non plus fait des tonnes. Pourtant,
il était pas en une, quoi.
On en a parlé dans les podcasts. Fumble en a fait news.
Il y aurait Limbo,
et c'est bien.
Je pense aussi.
Il y a eu Limbo aussi, effectivement.
Même si pour moi, c'est pas un truc extraordinaire, mais.
Il y a Super Meat Boy aussi qu'on a mis en avant.
Voilà. En gros, il y en a 5 en 1000 ans.
Bon,
c'est pas énorme, quoi.
Bon, bah David.
David va te coucher.
Sur le côté, genre les jeux vidéo, c'est de l'art et tout. Bon, je serais d'accord, mais sur le côté, la presse en ferait trop. Bon, pas Gameblog en tout cas, clairement pas.
Bon, c'est pas l'impression qu'on a, mais bon. Non. De toute façon, il a pas sa langue dans sa poche, David, non plus.
Mais c'est bien.
Ouais,
oui,
moi, je suis d'accord.
Là-dessus, c'est en tout cas, on peut pas. Les gens qui s'expriment et qui balancent des trucs et qui balancent des choses qu'ils pensent, pense à un autre David français, lui, développeur de jeux vidéo. Et bah, c'est bien. Ça fait bouger les choses, ça en énerve certains, et ça crée un débat et c'est cool. Allez, coup de cœur cette fois-ci avec l'Unreal Engine 3 qui a été dévoilé via une superbe vidéo. C'était aussi lors de la Game Developer Conférence au début du mois, une démo qui s'appelle The Samaritan, et franchement ça déchirait la gueule.
Bah j'ai un peu envie de dire comme d'hab, PC de ouf malade derrière avec je sais pas combien de cartes.
Mais ça fait longtemps, tu trouves pas qu'on avait pas pris une petite claque quand même
de ce niveau là?
Ouais.
La claque,
Moi, je trouve que là, on a franchi un cap hein, quand même. On est vraiment pas très loin de Pixar et compagnie dans un univers qui a rien à voir. Hein,
c'est
pas,
parce que c'est surtout ça, c'est tellement hyper réaliste.
Les textures.
Les reflets des néons sur les sols humides, etc. Ouais, ouais. Techniquement, de toute façon, ça va toujours plus loin, c'est sûr. Maintenant. J'arrive pas à m'emballer autant personnellement en tout cas qu'auparavant sur ce genre de prouesse technique. Ça, je sais pas pourquoi, moi ça me fait de moins en moins triper en
qui,
fait.
Qui il a vu Fumble?
Ouais, je l'ai vu et c'est pareil, je sais pas, ça me laisse un peu froid d'ailleurs. Ouais. Je trouve ça artistiquement froid.
Ah, artistiquement ça l'est, mais technologiquement.
Ça montre plein de choses, mais on sait pas exactement au final ce que ça va donner, avec comment ça va tourner dans les jeux. Donc. C'est joli, mais on se dit bon, on va attendre de voir des trucs concrets, quoi. Et puis,
mais ça
le
laisse.
Voilà, quoi.
Moi, je suis beaucoup plus excité
par le Frostbite 2 que.
Frostbite, ouais. Donc sur Battlefield 3.
Voilà.
Il y a le CryEngine 3 aussi qui a été dévoilé, mais je sais pas, ça m'a moins marqué. Enfin, les vidéos étaient moins mis en scène, on va dire.
De toute façon, tous ces moteurs, ils continuent d'évoluer. Le CryEngine, il y en a déjà sur Crysis 2. Ils continuent, c'est une grosse baston de middleware de toute façon. Donc ce qu'ils font au travers de ça, surtout une Game Developers Conference, c'est effectivement essayer de séduire des clients potentiels en disant regardez, c'est notre moteur qui est le meilleur. C'est surtout ça le truc. Après, ce que les gens vont en faire, c'est encore une autre question aussi.
En tout cas, dans les forums de Gameblog, puisque vous pouvez retrouver ces vidéos, hein, CryEngine 3 et l'Unreal Engine 3, vous tapez dans le moteur de recherche de Gameblog, ils y sont, faites-vous votre propre opinion. Mais visiblement, en tout cas, ça a quand même fait réagir. Les gens ont été un peu impressionnés quand même.
Ouais, et puis alors, il y a par contre un autre truc qui est peut-être intéressant à noter, c'est que la dernière fois qu'ils avaient fait une vidéo comme ça, avec un univers entier, des personnages, etc., ça a donné plus tard Gears of War. Donc peut-être que, même s'ils ont infirmé pour l'instant travailler sur un projet comme ça, peut-être qu'il y aura un jeu samaritan.
Ils ont laissé la porte ouverte, ouais.
Voilà.
Donc, mais je serais à ce niveau-là assez d'accord avec Fumble, c'est vrai que pas super glamour l'univers et compagnie. Mais technologiquement, moi j'ai pris une bonne claque quand même. Allez, on va passer la deuxième partie de ce podcast avec les tests. Et il y en a une tête à chier, franchement. Il y en a, je crois, une vingtaine.
On a dit 20 secondes par jeu. Hein.
On a dit 20 secondes par jeu. Et, alors peut-être ce sera
on va tous se mettre à parler
un petit peu plus sur certains titres. Mais on va commencer déjà par regrouper les titres 3DS dont nous ne vous avions pas parlé dans le podcast dédié à la Nintendo 3DS. Et on va commencer avec... peut-être l'un des titres qui nous a le plus agréablement surpris au niveau de la 3D relief. Il s'agit de Pilot Wings, alors que Fumble essaye vraiment de contaminer son micro.
Personne ne veut lui prendre du
c'est
coup.
C'est ça, exactement. Traz, Pilot Wings Resort.
Tout à fait. Bah écoute, c'était une belle surprise, hein, j'avoue. En résumé, c'est des mini-jeux en fait, avec plusieurs moyens. Aérien, de locomotion aérien. Donc il y a l'avion, il y a l'ULM et il y a le deltaplane.
Et puis il y en a d'autres qu'on débloque derrière, il y a des chasseurs,
voilà, exactement. J'ai pas tout débloqué, hein, je t'avouerai. Donc comme c'est pas moi qui n'ai fait le test, j'ai joué quelques heures, mais pas suffisamment pour tout avoir encore. Mais je trouve ça très très mignon. Hein, les replays sont vraiment bien foutus.
L'impression de 3D est quand même assez bluffante. Hein.
Ouais, la 3D est vraiment bluffante sur ce jeu-là, effectivement. Un peu comme sur Ridge d'ailleurs, dont on parlera après. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression de planer. Quand il y a le Delta Plan, moi c'est mon moyen de locomotion préféré, je trouve ça vachement bien foutu. Parce que t'as les courants ascendants, effectivement.
Il y a tous les gyros bureau en Delta Plan.
Exactement, bah d'ailleurs
il aimerait bien, il préfère.
Une vitrée, là. Et du coup, non, c'est un vrai plaisir quoi.
Alors il me manque le gameplay se renouvelle pas énormément,
non, c'est ce que
gros,
dire.
Globalement c'est toujours des nouvelles missions, il faut passer à travers des cercles, photographier des zones, etc. On retrouve, pour ceux qui l'avaient découvert dans Wii Fit et dans Wii Sport Resort, la fameuse île que Nintendo est en train de recycler à l'envi, mais du coup on la connaît, il y a un petit affect mine de rien.
Aller dans le volcan en deltaplane, c'est rigolo. Ouais,
exactement.
Mais effectivement c'est plus un jeu snack auquel tu joues de temps en temps.
Agréable, dépaysant, pas très profond. C'est ce qu'on pourrait
par contre, les challenges parfois ils sont assez durs quoi, quand tu commences à avancer c'est pas si évident que ça d'avoir toutes les étoiles, mais non c'est vraiment un jeu très très plaisant et vraiment bien fait, c'est du Nintendo quoi, on connaît la patte donc,
mais c'est dommage qu'on puisse pas y jouer en multi.
Oui c'est vrai,
moi ça m'a déçu. Et il n'y a pas de Street Pass avec?
Non, il n'y a pas de Street Pass effectivement.
Un peu vite fini quoi.
En même temps, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire avec un Street Pass
Je sais pas.
Ou un multi avec ce jeu-là.
Ah bah en multi, tu
des courses en deltaplane.
Ouais, tu te balades.
Ouais, pourquoi pas,
tu sais, tu peux tirer avec les avions. Donc,
oui, tout à fait.
Des
sur
dogfight,
des cibles, etc. Ouais.
Enfin bon, ils ne l'ont pas fait. Ce qui fait que c'est pas non plus un jeu qui restera forcément dans les annales de la 3DS. Mais pour le lancement, c'est l'un des
mignon,
petits jeux sympathiques.
Ouais, ouais.
On reste avec toi justement, Traz, avec Ridge Racer 3D.
Exactement.
Bah écoute, c'est bien ou pas? Parce qu'on se rappelle tous de Asphalt qui nous a laissé un souvenir.
Qui est une vraie catastrophe.
C'est
bah, à côté, franchement, j'allais dire, il n'y a pas photo. Quoi. C'est, ouais. Le jour et la nuit, autant Asphalt 3D, aucun intérêt, mais vraiment, c'est moche. Non, mais c'est moche, c'est injouable. C'est... Les collisions, j'en avais parlé, c'est une catastrophe. Ouais. Autant Ridge Racer, c'est un jeu vraiment bien fini. Mm-hmm. Tu sens que derrière, il y a un gros développeur quand même. Donc, voilà, Namco. Donc, Namco Bandai. C'est quand même pas les derniers.
Même si, quand même, moi j'ai trouvé que c'était pas technologiquement parlant, on n'est pas vachement loin du Ridge Racer de la PSP qui est quand même sorti au lancement de la PSP.
De la PSP ?
Oui.
Ah, je me souviens pas de cette version-là.
Ah si, au lancement de la PSP, il y a eu Ridge Racer.
Ah peut-être.
C'est l'un des rares jeux auxquels j'ai beaucoup joué.
Ah bah écoute, c'est peut-être, mais j'ai jamais joué alors.
Ah ouais,
bah, parce que moi, à la base, Ridge Racer, j'aime pas quoi.
Ah ouais.
Je trouve que c'est un gameplay super bizarre avec tout en dérapage, hein, tout en drift.
Mm-hmm.
Et moi, j'avoue que j'ai un peu de mal avec ça. C'est pas trop ma tasse de thé. Mais sur ce jeu-là, effectivement, j'ai vraiment pris mon pied quoi. Même si, encore une fois, il n'y a pas un intérêt ultra profond. Parce qu'à partir du moment où tu as la bonne bagnole, le bon boost, etc. Bah, tu gagnes toutes les courses, quoi. Donc,
Et est-ce que, comme dans les Ridge Racer habituels, on se tape tout le temps la même course, mais en miroir, à l'envers, à l'endroit?
Alors, il y a quand même pas mal de circuits, mais effectivement, tu te les retapes un peu dans tous les sens, à tous les horaires du jour et de la nuit.
Ouais.
Donc, là, pour ça, c'est vrai que c'est un truc qui a été recyclé. Il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés dans le jeu, quoi.
Et la question que tout le monde se pose, l'effet 3D sur un jeu.
L'effet 3D est vraiment, vraiment bien.
Ouais.
D'ailleurs, je me suis amusé plusieurs fois à revenir en 2D. Histoire de voir la différence, et elle est vraiment énorme sur ce jeu-là.
D'accord.
Honnêtement, ce jeu-là en 2D, il n'a absolument aucun intérêt.
Ah oui,
vraiment,
carrément.
Ouais. C'est,
Donc la 3D apporte quand même quelque chose.
Autant sur un Rayman, par exemple, tu peux revenir en 2D, c'est pas ultra gênant,
mm-hmm.
même si l'univers est sympa pour l'être complètement en 3D, donc ça rend très bien. Mais sur ce jeu-là, aucun intérêt. Vraiment,
un vrai gros plus d'immersion.
Ouais, ouais. Parce que tu vois les distances avec les voitures, tu vois, t'appréhendes mieux les virages, etc.
Est-ce
quoi.
Que ça favorise vraiment l'impression de vitesse aussi?
Oui, pareil, ouais, effectivement.
Ça a l'air de speeder plus quand t'es en 3D.
Et est-ce que le vomi vient plus vite du coup? Parce que
non, jamais. 3D, bah, écoute, moi j'ai vu dans les transports en commun, j'ai pas de soucis. Hein.
D'accord.
Pourtant, ça speed, hein,
c'est pas vendu avec un
très très vite.
Non, comme Speed Racer sur PlayStation.
Pas ma connaissance. Oui, effectivement, je me souviens très bien de ça.
Ou Porsche Challenge.
Ou Porsche Challenge,
c'était la pub avec le petit sac.
Exactement, de Sony.
Ok, donc
un jeu très très sympa.
Sympa. Mais c'est un peu quand même le problème et l'avantage, on va dire, de ce line-up, c'est qu'il y a quelques jeux quand même sympas,
ouais.
Mais à la fois on sent tous qu'ils sont quand même pas vraiment très profonds, qu'ils vont pas durer très longtemps.
Exactement, c'est pas transcendant.
C'est un line-up sympa.
Tout à fait. Ceci dit, Ridge Racer, il est long.
Une console à 250€.
Ridge Racer, il est long, hein, parce que tu joues 5 heures, t'as fait 22% du jeu.
Et t'as rechargé 4 fois ta 3DS.
Ouais, au moins. deux fois.
Oui, c'est ça. On continue, je crois, une fois de plus avec toi, les lapins de Crétin 3D.
Non,
c'est Tiger. Ah,
TG.
Alors un tigre qui veut manger des lapins. Alors, qu'est-ce que vaut ces lapins Crétin 3D? Puisqu'on sait que du côté d'Ubisoft, le line-up est très contrasté. Il y a le Rayman 3D qui est très sympa. Il y a les dinosaures qui sont bien à chier. Et alors, les Ghost Recon qui est très bien aussi, effectivement. Et Splinter qui est complètement dobique. Alors, celui-là.
Je te rejoins en fait sur ce que tu disais avant par rapport à la 3DS, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un line-up avec des jeux sympas mais sans plus. Les lapins crétins, disons que c'est sympa moins. Les derniers titres, moi j'avais joué au dernier sur Wii qui était vraiment catastrophique, c'était limite du foutage de gueule.
Mais justement c'est le même principe parce que sur Wii c'est des mini-jeux et là justement c'est plutôt un jeu de plateforme.
Voilà, justement là ils ont laissé tomber l'aspect multijoueur, mini-jeu évidemment, avec la 3DS c'est plus compliqué. Pour revenir en fait sur un jeu de plateforme 2D classique comme à l'époque, comme ce qu'on pouvait avoir un peu sur 16 bits. Alors en tant que jeu de plateforme ça fonctionne pas mal, hein, même si la 3D apporte pas grand chose pour différencier les plans, on peut vraiment y jouer sans. Mais après c'est vraiment trop basique, c'est à dire que vu que c'est les lapins crétins, en plus on s'attend un petit peu de folie, à énormément de vie dans tout ça, mais on se contente d'être dans des niveaux donc qui sont différentes époques de l'histoire, parce qu'on on voyage toujours avec cette machine à laver spatio-temporelle. Donc on se retrouve à la préhistoire, en Égypte ancienne, à la Renaissance. Mais voilà, c'est très simple, on ramasse juste les petits items qui sont des petites bouées canards. Et s'il n'y a rien de très amusant, en fait, c'est très 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 basique. Alors je me disais que peut-être, je pensais à Alain et à Cyril en fait quand je jouais à ce jeu. Je me disais que peut-être que
qu'ils aiment
bien.
Basiques?
Non, mais qu'ils aiment bien les gameplay 2D vraiment à l'ancienne, assez simple et tout. Peut-être qu'ils pourraient retrouver des souvenirs. Moi j'ai retrouvé des souvenirs, mais vu que c'était un jeu original, j'avais envie plutôt d'une expérience nouvelle. Donc
d'accord.
Basique sans plus, quoi.
Ouais, un petit jeu moyen, quoi.
Voilà.
On va passer maintenant au jeu de console HD et de PC aussi, bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça que Fumble est là. Il y a eu pas mal de gros titres ce mois-ci. Mais on va commencer tout d'abord avec un jeu qui fait un peu polémique, car il avait tout pour réussir, il avait tout pour être beau, il avait tout pour être un nouveau champion. Et pourtant, il y a quelques éléments qui en font finalement une petite déception. Il s'agit, Julo, de Shift 2 Unleashed.
T'as très bien résumé, effectivement, ce nouveau Shift, parce que donc il y a eu un premier il y a un an qui était déjà très très bon en termes d'immersion, qui offrait une vue cockpit qui était vraiment incroyable. En termes de sensations, il y avait du flou, ça passait en noir et blanc quand il y avait des chocs. Ça, c'était vraiment kiffant. Malheureusement, il y avait quelques défauts et on les retrouve dans ce Shift 2.
C'est quoi les défauts essentiels pour toi ?
Alors, essentiellement, donc il y a deux gros défauts dans Shift. Mais d'abord, je voudrais parler des qualités, si ça te dérange pas.
Vas-y.
Parce que donc je te parlais de cette vue cockpit qui était incroyable. Là, cette fois, ils ont rajouté une vue qui est cette fois une vue casque. Donc, tu es directement à l'intérieur du casque du pilote. Hein, tu vois le bas du casque et le haut. Et il se passe un truc assez déroutant au départ. C'est que quand tu es dans une ligne droite et que le virage arrive, comme un vrai pilote, il va un peu anticiper le virage et donc tourner le regard vers la droite. Ou la gauche, et à ce moment-là, t'as l'impression que ta voiture tourne et tout, donc au début, c'est très déroutant, il faut s'y habituer, mais c'est hyper immersif, et d'autant qu'ils ont vraiment encore gonflé les effets, ça bouge dans tous les sens.
Et les sons.
Et voilà,
les
à cela s'ajoutent effectivement des sons, c'est juste ce qu'il y a de mieux.
Ouais.
Alors, c'est évidemment mille fois mieux que dans GT où c'est un peu pourri justement au niveau sonore.
Ah bah, salut,
c'est mieux que dans
défonce,
Forza,
ouais.
C'est mieux dans tout ce qui a été fait. C'est incroyable quand t'as une bagnole qui est devant toi qui va rouler sur le côté de la route, ça va mettre des gravillons sur la piste. Quand tu vas rouler dessus, tu vas les entendre faire gling-gling en dessous de ta bagnole. T'entends tout à l'intérieur du cockpit qui bouge, t'entends bien les bagnoles arriver sur les côtés, les boîtes elles rugissent, c'est vraiment incroyable en termes d'immersion, encore une fois, encore mieux que dans le premier, vraiment. Il est imprenable là-dessus, il est à des années-lumière de ce qui existe déjà. Mmh. Donc quand tu vois ça, surtout que le contenu du jeu est incroyable, hein, il y a quasiment 70 circuits, je sais même plus combien de caisses, il y a un mode...
Des circuits de jour et de nuit, par contre
voilà.
Pas de pluie.
Pas de pluie, pas de météo, malheureusement. Mmh. Mais c'est vrai que t'as des circuits de nuit qui sont vraiment dans la nuit noire, donc ça c'est assez rigolo. Au coucher du soleil, donc t'as aussi des circuits donc magnifiques avec des beaux effets
4D.
Voilà, qui sont impressionnants. Toute la réalisation est vraiment incroyable.
Bon, bah alors là, il a l'air extraordinaire.
Et là,
jeu.
Tu
et pourtant,
dis putain,
non.
Mais quel dommage, parce que il y a encore. Alors ça, c'est le même défaut que dans le premier, un défaut d'IA qui est incroyable. C'est-à-dire que les bagnoles qui sont derrière toi vont être extrêmement agressive, mais jusqu'à la bêtise, quoi. Mmh. C'est-à-dire que ils vont essayer de passer à des moments où ils peuvent pas passer, et comme le jeu est un peu plus simulation que le précédent, hein, c'est toujours un compromis, mais il est beaucoup plus simulation quand même. À peine on te touche, tu pars en vrille. À peine tu touches une barrière, tu pars en vrille.
Et il y a des accidents très spectaculaires.
Et la course est foutue. Ouais, les accidents sont effectivement très spectaculaires. La bagnole peut se retourner, hein, faire des tonneaux, etc. Il y a des bonnes réactions physiques et tout. Non, mais vraiment, il y a vraiment que ça. Donc
il y a tellement de choses mieux que Gran Turismo 5,
ouais,
et pourtant en termes de feeling,
les dégâts sont bien rendus.
Les courses deviennent un cauchemar à cause de cette IA. Et à cause d'un problème dans la direction, et c'est marrant parce que c'est un truc que j'avais vu dans le dernier Need for Speed aussi, dans le
Hot Pursuit,
ouais, qui était un jeu d'arcade avec des pistes très très larges, etc. Donc c'était moins handicapant.
Mais ça tournait pas.
Il y a une latence en fait dans les commandes. Quand tu tournes à gauche ou à droite, il va se passer un quart de seconde, ça paraît rien. Mais du coup,
si
t'arrives pas à trajecter comme
géant,
tu veux.
Si
en fait,
tu viens de faire 300 à l'heure.
Ouais, voilà, c'est ça. T'arrêtes pas de te battre avec ta trajectoire et tu finis par faire des courses où, entre la gestion de l'IA pourrie des mecs qui sont derrière toi, des circuits qui, comme le Nürburgring, sont parfois très étroits et des bagnoles qui vont très très vite, et bah tu finis par faire du slalom. Comme il y a des modèles physiques assez réalistes, au bout de 2-3 embardées, ta bagnole elle part en tête à queue, et donc ça devient un cauchemar très rapidement, mais extrêmement frustrant parce qu'à côté de ça, on a des qualités, mais vraiment hors du commun, quoi. C'est un jeu superbe.
C'est un beau gâchis, quoi.
C'est un beau gâchis. C'est le goût qui me reste en fait à la fin. Je n'y rejouerai pas au-delà du test, comme ça a été le cas avec le premier, mais je suis très impatient de voir le 3.
Ouais.
Voilà.
Mais moi, il y a une chose que quand tu faisais le test, je ne t'avais jamais vu faire, c'est jeter ta manette.
Exactement.
Mais jamais. Julo
ah ouais,
est quelqu'un
assez
calme globalement, et là il jetait
ou
sa
pas.
Manette.
Bah disons qu'à un moment t'as la rage, quoi.
Bah ouais, ouais.
Parce que
c'est quand même dommage.
Effectivement, quand tu te retrouves dans les catégories A, donc les voitures qui commencent à aller vraiment très très vite,
manette.
Et que t'es sur le Nürburgring, qui est un circuit extraordinaire, qui est mon préféré, mais qui est connu pour être très très difficile, hein,
très long,
très étroit, très long.
Très long, ouais.
Et tu dois réussir le tour, arriver premier pour continuer ton mode carrière, et que tu dois t'y reprendre à 10 fois. C'est 7 minutes à chaque fois, hein, pour faire le tour du Nürburgring, 7 à 8 minutes. T'en peux plus.
Imagine, t'as envie de tuer, imagine si c'était Trace qui avait fait le test, on aurait plus de manette. Hein. Mm-hmm.
Non, j'aurais fini le jeu en deux heures, moi.
Bien sûr.
Donc on peut régler un tout petit peu les réglages de l'analogique, le point zéro de l'analogique, la sensibilité, etc. Ça peut améliorer un petit peu, mais le défaut de latence, lui, il est toujours là. Et vraiment, c'est un truc que je comprends pas. Je sais que ça donne du poids au véhicule quand on fait ça, parce que quand t'as une petite latence comme ça, t'as l'impression que ton véhicule est plus lourd. Mais là, c'est vraiment. Ça rend les courses injouables. Voilà.
Ok. Alors, c'est peut-être quelque chose d'un peu similaire qui s'est produit, Fumble, tu vas nous le dire, avec Crysis 2. C'est un FPS très attendu, une débauche technologique. On se dit, on va être happé par l'histoire. Ça se passe à New York, l'arrivée d'extraterrestres, etc.
Ou pas.
Et finalement, t'es pas totalement rentré dedans. Il a manqué des choses.
Je suis même pas du tout rentré dedans.
Très bien.
En fait. je suis pas rentré du tout dans l'ambiance. Alors je sais, j'ai lu tous les commentaires, tout ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont rentrés tout à fait dans l'ambiance, qui trouvent le jeu immersif. Tant mieux, c'est ce que je dis dans le test. Si vous avez aimé l'ambiance, si vous avez aimé le scénar, c'est autre chose encore. Mais tant mieux pour vous, c'est parfait. Moi, je suis pas du tout rentré dedans à cause d'un certain nombre de choses. En fait, j'ai continué à réfléchir après. Pourquoi? Plusieurs éléments, en fait, un tout qui m'ont fait sortir de l'ambiance. Donc l'action reste bien, tout le jeu reste bien, mm-hmm. mais quand t'es sorti du truc, et bah voilà, tu perds quand même beaucoup de choses, quoi. C'est très personnel, mais ça fait que c'est définitif, quoi. Je suis pas.
Mais aujourd'hui, les FPS, il y a une énorme guerre. C'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus. Il y en a qui sont sacrément costauds, extrêmement bien armés au propre comme au figuré. Si on nommait, on va dire, ce caractère d'ambiance et d'histoire, est-ce que ça en reste un bon FPS efficace?
Ah oui, complètement. Oui. Ouais. Ah, il a tout ce qu'il faut. Bon, je trouve qu'il a tout ce qu'il faut qu'on fait maintenant. Donc mmh. il apporte rien de nouveau. Donc c'est pour ça qu'il est pas, j'ai pas mis de trucs indispensables ou je suis pas allé plus loin que le 4.
Le macaron indispensable.
Le macaron
de
indispensable. Non,
4 qu'il a eu surtout pour son multi,
quoi.
D'ailleurs. Hein, ce que tu
ouais,
disais.
Le multi. Il y a encore des choses à dire sur le multi parce qu'il y a des petits soucis apparemment.
Sur PS3, je crois.
Sur PC. Il y a des gros problèmes de cheat, en fait. Mais on verra ça après. Mais non, ils ont fait des efforts sur plein de trucs. Il est très beau.
Il est un peu carré. Il est allemand, quoi. Ça y va, ça défouraille, ça avance, mais il n'y a peut-être pas assez de subtilité pour le
level
les Français
design,
que nous sommes.
Tu veux dire, le level design, c'est couloir arène. C'est même pas un truc qui m'énerve tant que ça, en fait.
Ouais.
C'est un des éléments qui m'a fait sortir du jeu parce que c'est quelque chose que tu vois parfaitement. Quand tu vois parfaitement le level design, c'est dommage. Tu vois le couloir, tu vois l'arène, tu vois le couloir, tu vois l'arène, il n'y a rien qui te surprend. Mm-hmm. Tu vois comment c'est créé. Et donc, quand tu vois les mécanismes d'un truc, tu sors du jeu, donc c'est
y a pas de folie, y a pas
une des façons.
Ça manque un peu d'âme, quoi. Sors. Si je
voilà, voilà, exactement.
C'est la folie, quoi. Tu vois, c'est la folie.
c'est voilà.
D'accord.
Je t'expliquais aussi qu'il y avait une espèce d'incohérence.
C'est inconnu, je dis ça comme ça.
On risque de spoiler peut-être un petit peu le premier en disant ça, mais en fait, tu incarnes un personnage différent de celui que tout le monde croit que tu es. Et sauf à certains moments du jeu où les mecs te reconnaissent alors que t'as toujours ta combi sur la tronche. Et que ça
quand tu
spoil bizarre.
Tout.
Oui, faut pas
dans
spoiler.
Dans le.
C'est pas spoiler.
J'ai pas cité les noms des personnages.
On n'a pas le droit de spoiler, mais bon, les mecs, ils ont essayé de faire. Enfin, le mec, il a essayé de faire un scénar complexe. En se débrouillant avec les choses que Crytek voulait mettre de côté du 1 et en rajoutant les trucs qu'il voulait mettre. Et c'est un melting pot un peu difficile. Alors, entre le 1 et le 2, c'est le bordel. Et tout ce qui reste du 2, en fait, c'est au niveau du scénar en lui-même, de l'histoire, c'est qu'en fait, il propose pas vraiment d'histoire. Mmh. Tu vois un jeu, tu t'attends à un film hollywoodien, ouais. Limite un truc avec comme une histoire. Mais en fait, c'est plus un scénar de série.
D'accord.
Et c'est un long scénar de série explicatif. C'est des scènes d'exposition, en fait. On t'explique plein de choses. Le mec, il est là pour t'expliquer qui a fait quoi, qui a créé la combi, comment elle marche, machin. Qu'est-ce qui s'est passé un peu dans le premier, sauf les trucs qu'on a achetés à la poubelle. Et au bout d'un moment,
bon, ça marche pas au final. Quoi.
On a appris plein de trucs, mais il n'y a pas d'histoire.
Mmh. D'accord.
Mais effectivement, comme le soulignait tout à l'heure, c'est l'un des 3. Points forts, en tout cas ce qui t'a marqué, 3. C'était le multi.
Alors le multi, par contre, il est bien foutu. C'est vraiment un équilibre parfait entre le bourrinage et l'utilisation tactique des pouvoirs de ta combi. Mmh. Et comme la combi est parfaite au niveau du maniement, de la maniabilité de la combi, beaucoup. C'est impeccable. Quoi. Ouais. C'est vraiment ça a l'air bourrin, mais la différence entre le mec qui va arriver et qui va juste, tu vois, gérer la furtivité, l'armure, et puis qui va shooter 2-3 mecs, et celui qui va utiliser la nanovision notamment, qui est vraiment super importante, c'est énorme. Le level design aussi des maps est très bien, parce que t'as quasiment en sécurité nulle part, faut bouger tout le temps.
Il y a beaucoup de verticalité aussi.
Beaucoup moins que dans la version solo. Il y a une carte avec des parkings en hauteur qui est pas mal. C'est plus soit de l'intérieur des bâtiments, qui est des bâtiments détruits complètement, donc il y a des trous partout, il y a des couloirs, mais bon, les ennemis peuvent arriver de partout. Soit des cartes en extérieur avec des grandes zones ouvertes et des bâtiments autour, des trucs comme ça. Mais il n'y a pas trop de verticalité.
Il n'y a pas les Twin Towers?
C'est une carte en fait assez plate.
Voilà.
Non, c'est ça, en fait.
Donc pour résumer, un bon multi malgré quelques problèmes sur PC.
En ce moment, il y a un gros problème sur PC, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont découvert qu'ils pouvaient modifier plein de variables et faire un cheat de la mort. C'est-à-dire qu'on voit un mec, on n'a pas fait encore la news parce que je suis là en train de faire un podcast. on voit le mec en armure, furtif, sprint total avec la nanovision pendant 3 minutes. Dézinguer tout le monde, ça s'arrête 10 secondes, le temps de recharger le truc, et il est reparti.
Ah oui, et ça c'est un vrai bug, ça.
Bah c'est
une utilisation frauduleuse de failles dans le jeu.
C'est une faille, les mecs ils auraient pu quand même regarder ce qu'ils faisaient avec
ça va être corrigé, ça.
Oui, ça va être corrigé, mais c'est quand même énorme, quoi.
Oui, bah oui.
C'est du développement avec des variables données comme ça.
Un bon multi
qui marche sur tes clients, quoi. Non.
Multi, un solo efficace mais un peu sans âme. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur Crysis 2. On continue avec un autre FPS, lui aussi marquant, vous en avez forcément beaucoup entendu ce mois-ci. Il s'agit de Homefront. Il était très attendu avec John Mylus aux manettes, enfin surtout à l'écriture du scénario, donc celui qui a donné naissance à Apocalypse Now par exemple,
et Conan le Barbare.
C'est donc les États-Unis envahis par la Corée du Nord, ça, on va dire que ça change,
c'est la Corée
un petit
réunifiée
peu.
En l'occurrence,
mais... très bien, ça change un peu des talibans ou des russes, mais pour autant ça n'a pas véritablement séduit Mimic.
Effectivement, pour plusieurs raisons. C'est dommage parce que nous, en plus, on était tous les deux à l'E3 quand on l'a découvert pour la première fois.
Mais ça commence à dater un peu.
Et effectivement, ça date. Le problème, c'est qu'il n'a pas
3 ans.
Il n'a pas couvert cette distance. Ouais. Et donc, en réalité, au train où vont les choses, il a finalement pris pas mal de retard visuellement. C'est-à-dire qu'il n'est plus aujourd'hui aussi convaincant qu'il était quand nous on l'a vu. Et puis, au-delà de ça aussi, c'est un jeu qui. Alors, évidemment, tous les first person shooters actuels ont une durée de vie pour le solo qui tourne autour des 5 à 8 heures, quoi, maxi. Et lui, il est vraiment dans la fourchette très très basse.
Ouais.
Donc, non seulement il n'y a finalement pas grand chose d'extraordinaire dans le jeu, à part l'utilisation de cette espèce de tank dans certains niveaux que tu peux télécommander et qui te sert à faire bouger par exemple une couverture éventuelle, etc., et à progresser dans les niveaux comme ça, ce qui était une idée intéressante. Mais en dehors finalement
d'un scénario. Le scénario n'est pas intéressant ?
Le scénario est bien, mais c'est pas non plus transcendantal, quoi. Ouais. Voilà, donc c'est un petit peu.
Minus, quoi.
Bah, c'est-à-dire que lui, il écrit une histoire qui est une histoire.
Ça l'a entendu très bien.
Non, mais. C'était quoi ?
J'ai dit que c'était pas John Mylus, mais Minus.
Minus, ah oui. Oui,
c'était un scénario petit. Oui, bon.
Enfin, c'est un scénario linéaire, quoi, surtout. C'est-à-dire que c'est pas écrit. C'est à peu près la première fois, je crois, qu'il écrit pour le jeu vidéo. Et
il sait pas écrire pour le jeu vidéo ?
C'est-à-dire qu'il écrit de manière assez traditionnelle et que finalement ça se ressent au final dans les jeux, puisqu'à mesure que la narration s'améliore dans le jeu vidéo aussi et qu'on exploite de plus en plus le gameplay pour raconter une histoire, ça se ressent quand c'est pas le cas.
Donc ça ne nous a pas convaincus, soyons clairs.
Pourtant,
soyons
le multi
francs.
Est pas mal aussi,
ouais.
Mais il n'est pas non plus méga joué parce que, un, il faut un pass online, donc de toute façon les gens qui auront vendu le jeu, et il y a apparemment beaucoup de retours sur ce jeu.
Oui, parce qu'il est bien parti, hein, 1 million jours, mais apparemment
le marketing qu'ils ont fait.
C'est ce que j'allais dire.
Mais il y a eu des millions de pleurs aussi, apparemment.
Il a vraiment cartonné, mais il y a beaucoup de retours. Et du coup, ceux qui ont déjà cramé leur code pour jouer en ligne, quand tu l'achètes d'occasion, tu peux pas jouer en ligne, il faut racheter un code, etc. Donc au final, il est pas non plus très joué en ligne. Donc au global, voilà.
Déception. Alors en revanche, on se demandait pendant très longtemps
qui pourrait tenter, pas, peut-être pas de battre, mais en tout cas de concurrencer le célèbre World of Warcraft, ce MMORPG absolument devenu gargantuesque, colossal, une sorte de phénomène. Bah on a peut-être trouvé quelqu'un en la personne de Rift qui pourrait en tout cas titiller un petit peu le World of Warcraft. En tout cas, il y a des bonnes idées, il y a quelque chose d'intéressant, Fumble.
Oui, bah, de toute façon, c'est tout c'est ce qu'ils ont voulu faire depuis le début. Hein. Tryon, ils l'ont dit encore récemment.
Il y en a qui ont essayé et qui ont eu des problèmes.
Oui. Mais bon, des free-to-play, des machins, enfin des trucs qui ont copié. Mais là, ils ont fait quelque chose de concret, de riche, qui s'attaque directement aux gamers. Ils l'ont dit, nous, on s'attaque aux gamers. C'est les gens qui savent déjà jouer aux MMO et qui savent sûrement déjà jouer à World of Warcraft. Donc ils l'ont sorti et bah, ça s'est bien passé, donc il n'y a effectivement pas grand chose à dire, ça fait 2-3 semaines maintenant que ça tourne.
Ils ont déjà foutu une première mise à jour.
Ils viennent de faire la première mise à jour.
Qui apporte quoi?
Alors en fait, beaucoup de changements, beaucoup d'équilibrage. Bon, ça de toute façon ils vont faire pendant des années, enfin je leur souhaite.
Comme sur WoW, ouais.
Les âmes, il y a le système d'âmes, il y en a beaucoup qui sont un petit peu abusés, donc... Il faut travailler et puis ils vont faire des changements qui vont apporter d'autres problèmes. Donc ils continueront ça, comme ça pendant des lustres.
Mais néanmoins, pour ceux qui ne savent pas du tout ce qu'est Rift, c'est quoi Rift?
Parce qu'on l'a toujours. C'est un MMO qui ressemble beaucoup à World of Warcraft.
Quel univers ça parle de
c'est
quoi?
C'est un univers heroic fantasy très classique. Mm-hmm. Voilà, donc on a fait peur à personne. Mm-hmm. C'est pas des elfes, mais c'est les mêmes. Il y a des nains.
Des nains, c'est des mêmes trucs avec les dons différents, quoi, c'est ça?
Ouais, avec un peu des gueules différentes et puis deux, trois trucs, mais c'est rien qui choque, quoi. Et c'est un univers magique où il y a des failles.
D'où le nom de Rift.
Voilà, des rifts qui s'ouvrent et les créatures des autres plans, donc le plan de l'eau, de la terre, du feu, de l'air, de la mort et de la vie, je crois que j'en oublie un, mais c'est pas sûr. Débarquent sur Tellara pour prendre possession des lieux et il faut les repousser en permanence. Avec le plan de la mort qui est le plus gros plan, l'infâme Régulos qui essaie de...
Et qu'est-ce qui en fait pourquoi ce Rift on dit que enfin, les gens accrochent contrairement à de nombreux autres MMORPG qui étaient sortis et qui ont vraiment... fait feu de paille, quoi.
Parce qu'il y a Team Gameblog, je pense.
J'avais fait l'interview d'un des développeurs que personne n'a lu sûrement sur Gameblog.
Mais si, oh là là.
Et qui disait un truc vraiment intéressant, c'est qu'ils ont, avec les invasions de monstres, ils ont imposé des choses aux joueurs. C'est-à-dire qu'ils ont, ils sont passés par-dessus des règles élémentaires du MMO, comme quoi on ne doit pas déranger les joueurs pendant qu'ils quêtent, qu'on ne doit pas détruire des lieux de quête ou les empêcher de faire leur truc, sinon ils s'en vont. Mmh. Et ça, ils l'ont fait, ils ont mis des monstres partout. Mmh. T'es obligé d'arrêter ce que tu fais, de faire ce que tu fais pour te défendre, pour reprendre les lieux contre les monstres. Et c'est ce qu'ils appellent leur gameplay dynamique. Et les gens ont beaucoup accroché à ça, en fait. Ils ont bien aimé d'être bousculés dans leurs habitudes, qu'on leur balance des paquets de monstres sur la gueule. Mmh. Et ils adorent ça. Et d'ailleurs, la dernière mise à jour offre un événement comme ça au niveau du serveur en entier, et qui dure sur une semaine. Donc ils l'ont testé un petit peu en test, là ils l'ont balancé, c'est bien.
Et alors, il y a la guilde.
Ah, la guilde.
Gameblog.
La guilde.
Ouais,
comment
guilde,
ça se passe avec les gameblogueurs dans Rift? C'est tous des connards.
Alors, malgré mes récompenses, enfin mes promesses de dire de mal de tout le monde en ligne, non, ça n'a pas tiré beaucoup de monde, c'est vrai. On est très peu, il y a beaucoup d'alt, c'est-à-dire que le même joueur peut avoir plusieurs personnages secondaires. Je me connecte, mais... je vois quasiment personne, sauf Jehan, qui est souvent là, un joueur assidu. Deux, trois autres personnes de temps en temps.
On
mais
peut
bon,
lancer
non,
un appel.
Comment on retrouve quand même lancé pas mal.
L'appel, oui, mais attends, là, on est dans le podcast de Gameblog, alors attends. Comment s'appelle la guilde?
La guilde s'appelle Gameblog.
Alors déjà, ça, c'est, je tiens à dire, c'est quand même une bonne trouvaille.
Ouais, c'est pas mal comme nom. Oui. Je voulais le mettre en majuscule aussi, mais non, finalement, c'est peut-être en majuscule d'ailleurs. Et je suis sur le serveur Finius, côté Renega. rejoignez-nous, s'il vous plaît, on n'est pas nombreux. On s'ennuie. Sinon, ils vont tous partir.
Donnez-nous
déjà,
des XP. Donc voilà, je crois que.
Non, c'est bonne ambiance. C'est vraiment c'est la guilde pour ceux qui n'ont pas de guilde, en fait. Venez,
hein,
passez, dire bonjour. Et puis, quand vous en avez marre, vous irez dans une vraie guilde. Mais...
c'est voilà. Pour vous entraîner.
Allez, c'est... passez dire ouais. Bonjour à Fumble et au reste des game bloggers sur Rift. Ça peut être sympa, en tout cas. On reste avec toi, Fumble. On va parler d'un autre gros jeu, là, véritablement événement sur le monde du PC. C'est un grand jeu, c'est Total War Shogun 2 qui t'a là vraiment éclaté.
Oui, il m'a vraiment scotché.
Même à 40 degrés de fièvre.
Ouais. C'était peut-être ça qui me scotchait en fait, je sais pas. Mais le problème avec Total War Shogun 2, c'est que je suis pas un grand joueur de Total War. J'ai joué un peu, je suis pas un grand stratégie, fanatique ou un grand stratège non plus, pour quel que soit le jeu. Et là donc on m'a donné ce test à faire parce que joueur PC et personne d'autre et donc je me suis dit qu'il fallait le faire aussi pour les gens qui savent pas jouer forcément des Total War que j'ai fait pour des gens qui étaient dans mon cas. Donc je m'excuse encore auprès des gros fans, des gros pros de Total War qui sont peut-être pas retrouvés dans le test, mais c'est pas grave, il y a d'autres tests de pros ailleurs et celui-là je l'ai fait pour dire aux gens que Total War c'était difficile mais qu'on pouvait y arriver quand on était à nous quoi, qu'on pouvait être à fond dans le jeu, qu'on pouvait découvrir des trucs fantastiques parce que le jeu est très riche, le gameplay est énorme, on découvre des trucs en permanence et c'est vraiment très accrocheur quoi. Et en plus on y arrive, il y a un niveau de difficulté qui fait que bon on galère mais j'ai réussi ma première partie quoi. Et je peux te dire que j'étais fier quoi. Parce que j'y croyais pas du tout hein. Ouais. Pas du tout, je suis revenu plusieurs fois dessus, 2-3 fois des gros retours en arrière dans la partie en disant mais qu'est-ce que j'ai foiré. Parce que le jeu est mal expliqué, donc faut vraiment faire des expériences et essayer des trucs et trouver des solutions soi-même.
Mal expliqué mais ça reste accessible. Justement,
si t'es patient,
pas de tutoriel classique, tout ça.
Le tutoriel est nul, mais vraiment nul.
Ça c'est étranger.
Voilà. On a mis des nouvelles unités dans Total War Shogun 2. Elles font ça. Vas-y, essaye.
Ça marche pas.
Bon, j'ai pas compris, mais
je vais essayer.
Il faut se débrouiller un petit peu par soi-même, quoi.
Complètement, complètement. Et
on apprend par l'échec.
Alors. Par contre, bémol par rapport après le test. Ouais. Alors déjà, il y a beaucoup plus de bugs que moi j'en ai eu. Enfin, il y a des retours de bugs assez graves, des bugs de sauvegarde. Donc, il faut faire très attention. Moi, j'ai pas eu de bugs de sauvegarde.
Ça, c'est les boules quand même, parce que t'as joué 5 heures.
Oui, apparemment, tu peux perdre tes sauvegardes, surtout sur un jeu comme ça, c'est grave. Ouais. Et des gros bugs de multijoueur.
Ah
apparemment,
bon
oui, le multijoueur que j'avais pas pu vraiment tester parce qu'il y avait personne.
Ouais.
Oui, c'est sûr. Des testeurs, mais bon, apparemment, on teste pas aux mêmes heures. Et. Apparemment, le lobby ne marche pas, il y a des problèmes de création de partie, donc ça, faudrait
toi,
que je relance et que j'essaye.
Tous ces problèmes, ça doit peut-être dépendre aussi un peu des configs de chacun.
Non, là, pour le multijoueur, c'est vraiment du côté du client, donc on va laisser Sega et des Creative Assembly bosser là-dessus, en espérant.
Mais le cœur du jeu, en tout cas, est hautement séduisant.
C'est hallucinant, c'est vraiment. Ouais. C'est prenant, mais...
Du début jusqu'à la fin.
Il y a trop de choses à faire, non.
Très bien. Allez, on va accélérer un peu avec les tests qui nous attendent, puisque après, on va aussi vous parler d'impressions de certains titres, et on vous parlera un petit peu d'autres choses si on a le temps. On va aller vite. Allez, on va passer très rapidement sur Okamiden, qui sortait enfin chez nous en France, donc la suite du célèbre Okami, qui était sorti sur Wii et plus tard sur PS2, mais là, voilà... sur PS2 et sur Wii, et qui là sort sur DS avec Chibi Amaterasu.
Tout à fait. Alors, c'est dommage parce que moi je pourrais en parler des heures. Donc, ça a été mon...
Mais tu l'as fait dans ton test.
Ça a été mon petit coup de cœur sur DS. J'avais très peur que ça soit en fait une version. Tu sais, souvent quand t'as des jeux qui sont sur console de salon dont la suite se retrouve sur portable, il y a plein de choses qui sont bridées, plein de choses qui sont moins intéressantes. Et alors, certes, il y a moins d'exploration que dans Okami l'original.
On est plus dans un monde ouvert.
On est toujours dans un monde ouvert.
Mais c'est segmenté.
Mais c'est, en fait, c'est-à-dire que c'est plutôt la narration qui fait qu'on a moins de phases d'exploration et que très vite on avance dans l'histoire par rapport à Okami. Mais sinon c'est les mêmes mécaniques, donc toujours avec le pinceau céleste. Alors là avec le stylet c'est parfait, hein, pour ressusciter les arbres, pour trancher des pierres, etc. On incarne donc Chibi, le petit loup qui est adorable. Il y a un gameplay un peu à la Zelda sur DS, parce qu'on aura toujours un petit compagnon. Mm-hmm. Donc par exemple il faudra lui tracer un chemin pour qu'il aille se placer sur un interrupteur, pour qu'on puisse aller sur une certaine plateforme, etc. Donc c'est un excellent jeu, Kamiden.
Et tu avais une très belle tournure pour le présenter. Tu disais qu'il y avait eu Spirit Tracks et l'autre Zelda...
Phantom Hourglass.
Phantom Hourglass et Spirit Tracks, et que finalement ce Okamiden serait le troisième petit Zelda de cœur de la DS.
Tout à fait, parce qu'on comparait beaucoup le premier Okami à la saga Zelda. C'est vrai qu'ils partagent énormément de choses. Et comme les épisodes DS sont d'excellents Zelda, ils n'ont pas à rougir face aux versions console de salon, c'est la même chose pour Okamiden. Je sais que le jeu est en anglais, que ça peut freiner certains, mais on est tellement heureux que la licence soit revenue que j'espère qu'il va faire de bons chiffres pour que la licence continue d'exister.
Eh bien, nous allons suivre ça dans les semaines à venir. Effectivement, très bon jeu. Moi, Okamiden. On passe à un autre titre qui n'a rien à voir cette fois-ci. C'est sur le ring que l'on va monter avec Trasm et Fight Night Champion.
Oui, effectivement, c'est un magnifique jeu de combat. Fantastique jeu de boxe, évidemment, oui. Comme chacun sait. La suite du fameux dernier Fight Night, pardon, voilà, d'Electronic Arts. C'est ultra bien foutu, évidemment. Hein. C'est comme tu as pu le voir aussi, Julien. Le réalisme des combats.
Pour moi, c'est simple. C'est colossal. Même devenu quasiment aussi beau, voire plus beau sur certains plans, que la toute première démo, rappelez-vous, de la PS3, où on voyait deux boxeurs qui s'en mettaient sur la gueule. C'est vraiment fameux, de ce niveau-là. Et il y a un mode carrière qui est assez étoffé.
Qui est hyper étoffé, évidemment.
On suit la trajectoire d'un espèce de jeune délinquant, machin, qui va regagner, qui s'entraîne dans sa prison, puis qui va sortir de là.
Qui se prend pour Rocky, tout ça.
Qui se prend pour Rocky. Et franchement, j'ai trouvé que c'était absolument génial quand on aimait la boxe.
Exactement.
Après, bon, le système de jeu est...
Il peut être un petit peu perturbant, un petit peu comme le précédent. Le
joystick.
Voilà, mais franchement, on s'y fait, quoi, on s'y fait. C'est un petit peu plus souple, un petit peu plus assoupli, donc... Honnêtement, comme tu dis, voilà, ceux qui adorent ça.
Pour les fans de boxe, ouais, clairement.
Allez, foutre des pains, hein, franchement.
Fight Night Champion.
C'est pas comme s'il y avait beaucoup de concurrents.
C'est clair, voilà, on vous le recommande en tout cas dans ce genre de truc.
Promesse tenue, il est vraiment très bien. Quoi.
Exactement. Allez, on continue avec toi, Traz, Motorstorm Apocalypse.
Exact, c'est un jeu de bagnole avec des apocalypses, voilà.
Très bien. Okay. Et qui fonctionne très bien en 3D, apparemment.
Et en 3D, il est magnifique, vraiment.
Ouais, je confirme.
D'ailleurs, Tiger, il y avait joué aussi. Là, pour le coup, la 3D est, j'allais dire, presque indispensable. Franchement, je regarde de pas avoir de télé 3D.
Et je crois que tu disais que c'était le meilleur épisode de la série.
Ah oui, très. Très très lent.
Les niveaux aériens, incroyable. Vraiment, la mise en scène
quand
est
sur les toits, etc.
Super machin, spectaculaire. Ouais.
Voilà. Et c'est heureusement, ça dépend pour qui, mais un petit peu moins dur que le dernier qui était vraiment vraiment dur. Là, c'est quand même beaucoup plus accessible, mais ça reste quand même un petit peu plus technique justement dans la conduite et évidemment tout se détruit dans tous les sens.
Gros coup de cœur, je crois.
Comment?
Gros coup de cœur.
C'est un gros coup de cœur. Franchement, c'est un très très bon jeu de course off-road de la mort, arcade, tout ça.
Bon, vous l'avez compris, on accélère un petit peu sur les tests, mais vous pouvez les retrouver tous en intégralité à l'écrit et certains en vidéo sur gameblog.fr. Hein, c'est très facile. Moteur de recherche, tapez le nom, recherche dynamique, clac, test, c'est parti. Tiger, on va passer très rapidement sur Pokémon version noire et blanche, ton jeu coup de cœur du mois.
Du siècle.
Le meilleur épisode sorti à ce jour. Il y a un super podcast à écouter par rapport aux Pokémon. Vous saurez tout sur Pokémon noir et blanc. Et il y a une super news aussi qui récapitule le fait que c'est les 15 ans de Pokémon cette année. Donc écoutez le podcast et retrouvez la news et vous saurez tout ce qu'il faut.
Podcast effectivement avec Grégoire Elot, le spécialiste des Pokémon en France. On reste avec toi, TG, avec Dragon Age 2. Alors le premier était vraiment chouette, le deuxième il fait poète.
C'est-à-dire qu'il ne se démarque pas assez du premier pour installer Dragon Age comme une saga incontournable du jeu de rôle et du jeu d'action, parce que cette orientation, la nouvelle orientation de BioWare par rapport à Dragon Age, c'est de maximiser l'action. Il y a des éléments qui ont été enlevés, on ne peut plus choisir la race de son personnage, on commence obligatoirement avec un héros qui s'appellera Hawk, on pourra choisir sa classe, s'il sera voleur, guerrier ou mage, son sexe, si ça sera une femme ou un homme. Mais Voilà, plein de choses en moins, donc plus ce choix de race, une partie beaucoup plus action. Donc si on joue comme Raon, qu'on aime couper toutes les 3 secondes les combats pour les mettre en pause, pour établir des stratégies, ça peut être marrant, mais pour le joueur
lambda, ça l'est quand même moins que le premier, parce qu'ils ont viré le Friendly Fire, du coup il n'y a plus l'aspect tactique. Exactement. De pas balancer les sorts n'importe où, n'importe comment.
Et puis encore une fois, même si c'est beaucoup plus beau, techniquement c'est toujours assez décevant, c'est-à-dire que c'est comme j'ai expliqué dans le test,
c'est
même
que pas très
beau.
Hein.
Mais voilà, et vu que l'univers est ultra riche, on sent que c'est très écrit, qu'il y a un vrai univers derrière tout ça, comme
ça c'est la marque
comme,
de fabrique
comme
de
dans
Bioware,
Mass Effect en fait. Quand on voit que tout ça est servi par une réalisation de cheapos où le doublage est pas terrible, les lèvres bougent pas au bon moment, quand on donne un coup d'épée, voilà, des fois
c'est en dessous de Mass Effect.
En gros, c'est pas du tout le Mass Effect médiéval, quoi.
Pas du tout. On aurait vraiment espéré que ça soit ça, parce que la transition, à mon sens, de Mass Effect, même si on a perdu beaucoup d'éléments pour les rôlistes, ça marche avec les phasers, tout ça, ça fonctionne très bien dans Mass Effect.
J'étais sûr.
Dans Dragon Age, c'est malheureusement pas la même chose.
Bon. Et bah dommage pour Dragon Age qui aura le tiep effect.
On passe à Top Spin 4, Traz.
Oui,
spécialiste de tennis.
Oui, non, le vrai spécialiste de tennis, c'est Yann, mais effectivement, j'ai pas mal joué, effectivement. Ce petit jeu, n'est-ce pas, avec Tiger, que j'ai pu jouer
on a
fois,
joué ensemble.
Alors, il est bien ou il est pas bien à l'arrivée de Roland Garros
sur quelques semaines. Comme dit Yann dans son test d'ailleurs, qui est très bien détaillé. Oui, vas-y. J'allais dire, il est vraiment vraiment technique.
Hein.
C'est toujours pareil, il faut charger les coups. Il faut charger les coups avant de frapper sa balle.
Ce qui est très impressionnant, c'est ça, c'est son gameplay, quoi. Ouais. C'est qu'on sent, on peut le prendre tout de suite, s'amuser, mais la marge de progression, elle est énorme.
Et les animations sont monstrueuses.
Ah oui. Alors ça, c'est n'importe quoi.
Comme les visages d'ailleurs. En fait,
mais dans la même manière, dans le même sens.
C'est vrai que graphiquement, après, les champions
sont zombiesques.
Voilà.
Mais ça, c'est le jeu est tellement bien foutu, ça passe comme au second plan.
En fait, on s'en fout un peu, finalement, qu'ils soient un peu
bronzés,
Agassi, les machins.
C'est pas très grave.
Mais les animations, ça défonce.
Au niveau des animations, ça défonce. Au niveau du gameplay,
ça défonce. Et surtout au niveau de la volée, parce que ça, c'est vraiment le talent d'Achille des jeux de tennis, c'est que les volées, en général, c'est n'importe quoi. C'est un peu au pifomètre. Et là, vraiment, il faut placer sa balle.
Ouais, c'est très exigeant.
On peut la prendre vraiment en bout de course, etc. Enfin bon.
Donc en attendant le prochain Virtua Tennis, en tout cas,
franchement, je pense que ça y est. De toute façon, là, il y a
ce sera Top Spin qui sera largement
dessus. C'est sûr.
Là, il n'y a pas concurrent.
Si tu veux quelque chose de technique, etc., jouer pendant des heures et des heures, plus un mode carrière qui est quand même bien foutu. Franchement, ouais. Maintenant, si t'attends un jeu d'arcade,
De toute façon, Virtua Tennis, ça irait sur ce créneau-là.
Exactement. Si t'attends un jeu de tennis plus arcade, tu prendras Virtua Tennis 4.
Eh bien, pour les fans de tennis numérique, ce sera Top Spin 4. Ce sera une belle référence.
Tomb Raider Trilogy qui sortait aussi, revisité. Tomb Raider Legend, Anniversary et Underworld. Alors, les deux premiers, Legend et Anniversary, ont été revus en mode HD, donc des textures un petit peu plus belles. Legend était un titre qui se joue finalement assez vite. C'est une petite dizaine d'heures. Les deux suivants, eux, sont, il faut compter entre 15 et 20 heures, et sont vraiment, pour ces deux derniers, Anniversary et Underworld, des grands chapitres de la série des Tomb Raider. On l'a détaillé dans le podcast de la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, avec Christophe Delpierre, un podcast que l'on dédiait à la série des Tomb Raider. Donc vous aurez plein d'infos, puis il y a le test aussi en ligne sur gameblog.fr. mais en gros, c'est un titre à tout petit prix, puisqu'il se vend à moins de 30 €, qui regroupe donc trois bons jeux, voire même deux très bons jeux. Donc très honnêtement, pour tous les fans de Tomb Raider, ou ceux surtout qui l'auraient lâché depuis quelques temps après la déception des mauvais épisodes de suite à L'Ange des Ténèbres, et qui n'auraient pas du tout regardé Lara depuis, et bien franchement, c'est une bonne manière de s'y remettre, de regarder.
De se préparer pour la suite, qui a l'air prometteuse quand même.
C'est moins souple, ça reste moins souple qu'Uncharted, c'est pas non plus exactement la même chose, mais par contre, c'est une très belle aventure. Trois très belles aventures.
Tout à fait.
Raon, toi aussi, du HD en réédition qui est sorti ce mois-ci, c'est Beyond Good and Evil.
Oui, pour moi, une grande réussite et qui le prouve en revenant aujourd'hui, puisque c'est un game design qui date un petit peu maintenant. C'était sorti sur PS2, PC et GameCube, je crois.
GameCube, oui, tout à fait.
Donc là, c'est a priori plutôt la version PC avec des textures un peu remises au goût du jour. Donc c'est vraiment une version HD plus qu'un véritable remake profond. Donc c'est un petit peu dommage. On aurait peut-être aimé qu'il travaille un petit peu plus pour le réactualiser, mais le game design lui-même reste hyper efficace. L'histoire et l'univers sont assez géniaux, moi j'adore, et c'est pas cher. Pour ceux qui l'auraient raté, ce grand jeu de Michel Ancel, c'est vraiment une très bonne occasion de s'y mettre. On n'a toujours pas la date de sortie PSN, je crois.
Non, ça devrait être dans le courant avril, voire mai. Okay. Mais elle n'est pas effectivement tombée définitivement, précisément.
Donc de toute façon, c'est déjà dispo sur Xbox Live Arcade, ça ne devrait pas tarder sur PSN. Voilà.
Et puis on ne cesse de répéter que pour tous ceux qui rêvent de voir un jour Beyond Good and Evil 2, la suite. On va passer par la petite case, on se le récupère, on y rejoue, on le découvre, cette version HD. Et pas le plus mauvais des signaux que vous pouvez envoyer à Ubisoft. Voilà. Allez, on va conclure ces tests avec Julo, avec The Blob 2, ce jeu qui nous vient de Hollande et qui nous demande de recolorer le monde.
Tout à fait. Alors, même concept que dans le premier, on incarne cette petite boule qui peut. Spongieuse, hein, qui peut se plonger dans la peinture pour ensuite rebondir contre tous les murs d'une ville qui est devenue complètement noir et blanc et la colorer au fur et à mesure.
Ou la saloper, c'est selon.
Voilà, et ce qui est marrant, c'est que comme dans le premier, la musique, en fait, tu interagis directement avec la musique, c'est-à-dire que selon la couleur que tu utilises pour repeindre les murs, ça rajoute des instruments en fait sur la BO qui est en train de passer. Et celle-là évolue aussi également d'instrument en instrument au fur et à mesure que tu repeins la ville. Donc, ça, c'est vraiment un principe sympa. Simplement, la découverte, on l'avait fait sur le premier épisode. Là, il n'y a pas grand chose en nouveauté, il y a juste ces petites phases vues de côté qui sont assez sympas, mais l'équilibre du jeu n'est pas excellent. On s'ennuie un petit peu, en fait, c'est ça le souci. La bonne humeur et tout est toujours là, l'effet de surprise est passé, et finalement on se retrouve devant un jeu de plateforme action très sympathique avec des scènes cinématiques qui font penser un peu au Lapin Crétin, très rigolo.
C'est plus un 1.5 qu'un 2, en fait.
Pardon ?
C'est plus un 1.5 qu'un 2, quoi, finalement.
Ouais, un peu, ouais. Ouais, tout à fait.
Il sera moins
marquant. Et surtout, il est moins marquant parce qu'on a eu l'effet de surprise sur le premier et parce que la progression dans le mode solo est pas hyper prenante et que les modes multi sont même probablement moins bien que dans le premier, je trouve. Donc, bof.
Bof. Voilà.
C'est pas mal.
Deux flops 2.
C'est pas un flop total, hein, quand on aime le genre, on peut s'amuser avec, mais il n'y a rien d'extraordinaire, quoi. Voilà.
Okay. Allez, on passe à nos impressions, parce que pendant ce mois de mars 2011, les équipes de Gameblog ont additionné les miles, ont voyagé à droite et à gauche, histoire de partir, essayer, pour la plupart du temps, pour la première fois, ou découvrir en images certains titres forts, phares, qui arriveront dans le cours de l'année. Et pour ça, Raon, toi, t'es parti carrément à San Francisco pour découvrir Batman Arkham City.
C'est ça, oui. Effectivement, j'étais en train de lire l'affiche où il y avait marqué Asylum.
Il y a une faute et je l'ai corrigé. T'as vu, j'ai ralenti la voix, ce qui a permis...
Quelle classe.
Complètement transparent.
Oui, donc effectivement, la suite donc, de Asylum qui m'a fait une très, très forte impression. Ça va se passer donc en extérieur cette fois-ci. Arkham City étant un quartier entier de Gotham City dans lequel il y a donc les prisonniers. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette fois, il y a plus un... Pour ceux qui apprécient Batman, il y a cet aspect chasse. Beaucoup plus prononcé, où tu dois surveiller un petit peu tout ce qui se passe dans la ville, etc. Alors il y a toujours une histoire, il y a toujours plein de nouveaux vilains, dont Double Face, il y a Catwoman, le Joker est évidemment de retour.
Il est monstrueux d'ailleurs, enfin, il est vraiment super.
Apparemment, il a une espèce de maladie chelou, mais on ne sait pas trop ce que c'est.
Est fou.
Ils ont
la folie.
Alors ils n'ont pas voulu en révéler trop évidemment sur le scénario et sur les petits niveaux spéciaux qu'il y aura.
Mais il y a quand même une grosse différence, c'est qu'apparemment 70% du jeu, 80% du jeu se passera en extérieur.
Alors apparemment oui, c'est-à-dire que comme je disais, c'est vraiment une ville entière. Enfin, c'est séparé en districts, mais c'est tout Arkham City. On passe d'un district à l'autre et il y a aussi des scènes quand même en intérieur, mais on peut par exemple voler au travers d'un vitrail à l'intérieur d'un bâtiment et se retrouver directement dans la rue sans chargement, sans rien.
Est-ce que ça se GTAise ?
Non, pas non plus à ce point-là. Un petit peu, mais c'est pas non plus GTA. Ça reste le même moteur. Donc bon, après, l'air de jeu est a priori, si je dis pas de bêtises, 5 fois plus grande que dans
qui était déjà
que la Arkham Island. Voilà, c'était pas petit non plus, mais voilà. Mais effectivement, ils ont habilement masqué les transitions, je pense, entre les différents quartiers de la ville. Et puis évidemment, ils ont raffiné le gameplay. Le fabuleux système de combat est encore enrichi. Il y a des doubles takedown, il y a plein de trucs. Tu peux planer avec ta cape, t'accrocher un peu partout dans la ville. Mais comme c'est ouvert, forcément, tu te sens plus libre. Ils ont aussi renforcé le mode détective. Donc plein de choses qui sont impressionnantes visuellement et au niveau du gameplay, ça a la patate, ça bouge vraiment bien. Il y a des doublages toujours aussi excellents avec les mêmes doubleurs qui reviennent. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi surprenant. Voilà.
Très bien. Donc, très bonnes premières impressions de ce Batman dont on reparlera bien évidemment très prochainement sur Gameblog. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer le producteur de Dead Island, vous savez, ce jeu de zombies là qui a été un véritable phénomène sur le net, alors qu'il n'a rien montré hormis un trailer.
trailer.
Quel trailer ?
Mais quel trailer ? Alors, pour être très honnête, tout ce qui vous a plu dans ce trailer, c'est-à-dire une ambiance différente, des petites filles complètement ouf.
N'y sera pas.
Voilà, bah, tout ça n'y est pas, et effectivement, voilà. Puisque l'ambiance est somme toute plutôt classique. Le compositeur de la musique du trailer ne sera pas dans le jeu. Néanmoins, le cadre, on va dire, c'est-à-dire une île paradisiaque dans laquelle infesté comme ça d'être putréfié, ça c'est véritablement Dead Island, et là-dessus, ça joue la différence. Sinon, on a, moi j'ai trouvé une sorte.
C'est un jeu d'action ?
C'est un jeu d'action, c'est finalement, c'est un petit peu, je suis en train de chercher son nom en même temps que je parle, le truc de
Dead
Capcom.
Rising.
Voilà, c'est Dead Rising en vue subjective.
Sur une île.
Sur une île déserte. Le jeu vous pousse beaucoup à aller au contact, ça veut dire qu'avant une certaine période, vous n'aurez pas d'armes, de fusils, etc., mais plutôt des armes de poing que vous pourrez upgrader. Techniquement, c'est pas moche, mais c'est pas non plus tonitruant. Il n'y aura pas de petite fille, et ça, vous le saurez bientôt pourquoi dans l'interview que nous allons vous livrer. Mais en gros, voilà, ça ne leur plaît pas tant que ça.
C'est un peu overhypé en fait.
Ouais, c'est honnêtement ce qu'on a pu voir, parce que donc on a vu le jeu tourner, n'est pas mauvais du tout, mais ce n'est pas grandiose. En tout cas, ce n'est pas clairement à la hauteur des espérances fondées derrière ce premier trailer qui était, on rappelle, en image de synthèse. Donc il faudra en attendre un petit peu plus pour savoir véritablement si Dead Island nous séduira ou si finalement il fera partie de tous ces jeux à caractère zombiesque qui déferlent en ce moment. Savoir qu'en faire. De ton côté, toi Tiger, tu as pu voir un autre jeu qui ne fait pas dans la dentelle. Il s'agit de The Darkness 2.
Oui, tout à fait. Le premier Darkness était sorti en 2001, donc inspiré du comics de Marc Silvestri et Garth Sennis.
Il était plutôt bien.
Oui, il avait fait bonne impression. Et là, on retrouve donc Jackie Estacado, qui était un mec qui était dans la mafia.
Estacado, c'est
Dora. Oh merde, on voit les deux parents. et l'autre qui meurt en même temps.
Je ne savais pas de quoi vous parlez.
C'est pas grave.
Je sais que Jackie Estacado maintenant est un ponte en fait de la mafia. Et voilà, exactement. Et donc on reprend l'aventure dans ce FPS qui se veut différent de ce qu'on voit. Si on peut avoir évidemment des armes à feu, on a surtout deux espèces de tentacules comme des têtes de chimère qui vont nous permettre de combattre nos ennemis. Donc il y en a une qui va les attraper pour les ramener vers nous. On peut s'en servir comme bouclier pendant que l'autre va la déchiqueter. On peut aussi attraper, tu sais, comme le Mola Ram dans Indiana Jones, on peut carrément attraper les cœurs dans les corps de nos adversaires. Et donc c'est vraiment très sombre. La démo qu'on a pu voir, en fait, le héros était littéralement cloué tel le Christ, il était crucifié quoi.
Non.
Donc un univers très très sombre qui à mon sens est très joli, enfin au niveau de la direction artistique, j'ai beaucoup
des
aimé.
Gens crucifiés, j'étais
non
trop
mais
joli.
Ouais, sombre mais très beau, c'est-à-dire que très vite ça pourrait devenir débile, bourrin, violent, et là il y a un traitement très comics, ils ont encore accentué un peu le tu sais le trait autour des textures pour que ça il y a un air encore un peu plus comics.
Mais c'est pas les mêmes développeurs que le premier.
Oui,
hein.
Par contre, ce n'est plus
c'est Starbreeze qui développait le premier,
Digital
c'est Digital
Extremes. Extremes, ouais. Visiblement, on nous a expliqué que chez Take-Two, chez 2K, pardon, même si on n'a pas pu vraiment le voir, on n'a eu qu'une démo, on n'a même pas pu y jouer. L'orientation du jeu maintenant est plus action. Hein, on sait maintenant, c'est à la mode. Un peu moins d'exploration.
C'est dommage quand même.
Mais en tout cas, on verra. En tout cas, ça donne envie. L'univers est vraiment sympa et c'est autre chose que la guerre, tout ça. Moi, ça me parle en tout cas.
Des jeux les plus attendus de David Jaffé. Ou pas. Fumble, toi, tu as pu découvrir Call of Juarez.
Oui,
Juarez.
Call of Juarez, oui, c'est donc un FPS.
Mm-hmm. Qui se passe au Mexique.
C'est fou, hein.
Qui se passera au Mexique, sûrement un point ou un autre du scénario, mais qui commence à Los Angeles, je crois.
Oui, parce que c'est ça, oui, parce que les premiers de la série, alors c'était
Texas.
Oui, on va dire, c'est plus les années 1800 et quelques.
Tu veux dire au Texas.
Et là, c'est
du cow-boy.
À notre époque.
C'est du cow-boy.
C'est très moderne, très bizarre, oui.
Avec des pantalons en cuir et des.
C'est ambiance machette. Los Angeles, quoi.
Avec des gangs et tout ça.
Tu travailles à la fin. Et donc, la grosse nouveauté, c'est qu'on pourra jouer à 3 en coop. Avec
c'est la grande mode ça, hein, jouer à plusieurs.
Oui, il y a beaucoup de coop en ce moment. Ouais. Là, c'est à 3, donc c'est encore mieux. Et on joue.
D'accord. non, mais à 3, c'est mieux, oui.
Okay. Et on joue un gang de ouf.
Ça, c'est pas, on verra si c'est mieux en fait.
Et donc
on joue. On peut jouer un des descendants de McCall, le héros du précédent. Mm-hmm. Un descendant indirect. Il y a aussi une fille du FBI. et un mec de la...
Elle porte des pantalons en cuir aussi ou...
Ouais, peut-être bien. Ouais. Ou, en cool. tout cas, bien serré.
Et c'est bien ou pas? Ça s'annonce
ça,
sympa
c'est
ou
C'est difficile
non, c'est
à dire. Encore à la présentation, il y avait beaucoup
de cow-boys.
Ça y est, train c'est parti. Pas beaucoup d'indiens. Il est lancé, ça y est, on vient de le perdre. 1h17 de podcast, c'était trop.
Il y a beaucoup de cinématiques, ouais. Donc c'est très axé sur l'histoire et l'histoire des trois personnages. Ils ont un but commun qui est de retrouver le,
une enfance pas facile.
Le cartel qui est. Il y en a une qui a une enfance pas facile.
Oh
c'est ça. C'est un peu ça.
Ouais, hein, quand même.
Et
est-ce qu'il y a des vraies idées de gameplay? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas vu avant?
C'est un couloir de ouf comme le premier.
Le coop est sympa parce que vraiment à des moments on peut être à des endroits vraiment très différents de la carte,
ouais.
Enfin, de ce qu'on a vu.
C'est du coop en ligne ou uniquement qu'ils ont prévu?
Alors est-ce qu'il y a du split screen? Je ne sais plus. Le split screen à 3 en même temps, ça me paraît.
Ouais.
Ça me paraît c'est difficile.
On mènera l'enquête.
Ça sera en ligne. On verra voilà. Pour la prochaine fois dès qu'ils ont.
Montré plus. Hein,
enfin, j'ai
plus.
L'impression que ça mais n'a pas non plus. Pour
c'est,
l'instant.
C'est vraiment le jeu typique pourquoi pas.
Oui.
Voilà. Pourquoi pas, on va ouais. voir.
Il sort quand? Une date,
en
une période
juin, je crois. En juin, je sais plus.
Bon, bah, c'est ça.
On verra
c'est
si en juin ce sera bien.
Il me semble que c'est juin. Ouais.
À suivre donc. Mais bon, vous sentez que pour l'instant il y a quand même des petites réticences. Hein.
Oh.
Traz,
oui, si on parlait de la prochaine grosse chose.
Exactement.
Qu'est-ce
The next big thing.
Ah oui, oui, oui. Bah, écoute, c'est un jeu d'aventure de Pendulo Studios, ceux qui avaient fait la trilogie Runaway.
Qui était très bien.
Espagnol, qui était extraordinaire déjà. C'est surtout le dernier. Enfin, je sais pas si Fumble il est. Vraiment d'accord avec moi, le dernier j'ai beaucoup aimé.
Non, moi je suis pas trop Runaway en fait.
Ah ouais, d'accord.
J'ai pas trouvé ça très drôle. J'accroche pas l'humour et au design.
Bah justement, je trouve que l'humour des deux premiers chapitres qu'on a pu tester pour faire les impressions, il est presque largement. Enfin, je dirais même qu'il est largement au-dessus des trois premiers Runaway réunis.
Ah ouais?
Je sais pas pourquoi ils se sont vraiment lâchés là, c'est plus sarcastique, etc. Enfin, je trouve ça mieux écrit, mieux foutu. Et pourtant, c'est des chapitres pris comme ça, un peu à la volée, quoi. Tu vois, on nous raconte pas forcément le background,
je
etc.
Je pense que c'est la victoire à la Coupe du Monde, ça les a désinhibés,
bah,
ils se lâchent.
Peut-être. Mais en tout cas, c'est sur ces deux chapitres-là, j'ai trouvé ça toujours aussi beau déjà. Hein. Mm-hmm. Donc, comme je disais, avec plein de personnes. Enfin, non, je le disais pas, mais il y a plein de personnages complètement débiles, comme d'habitude. Ça se passe dans un univers un peu monstrueux, mais en même temps. Dans l'autre aussi, tu vois, c'est pas dans un monde parallèle, etc.
Oui, parce que c'est dans notre monde, il y a des extraterrestres.
Voilà, il y a
arrivés,
des espèces de monstres. Mais en fait, ces monstres-là, ils jouent, ce sont des acteurs de cinéma. Donc, dans un Hollywood un peu spécial, j'en sais rien. Ouais. C'est très étrange.
Ça a l'air complètement barré ton machin.
Ce qu'on en a vu, en tout cas, c'est ça. Et du coup, tout va se passer dans des décors de cinéma, etc. C'est des journalistes, une femme et un homme qui mènent l'enquête sur
un meurtre.
Un truc très très spécial, mais je peux pas trop en parler.
D'accord.
Bref. Et du coup, ça s'annonce plutôt sympa, quoi.
Donc, première très, très bonne impression.
Sort le 7 avril, c'est-à-dire demain.
Demain, effectivement,
si
nous sommes
bien.
Le 6 avril, bien sûr. Attends, je regarde ma montre. Oh, mais oui, nous sommes le 6. Et donc demain, le test sur Gameblog.
Donc normalement, le test, oui, effectivement.
Exactement. Et puis alors, vous l'avez vu, c'était la semaine dernière, vous avez eu l'interview de Eric Chahi sur Gameblog, grâce à Raon et Poufi. Et bien justement, détaillons en un instant un survol rapide de From Dust, donc le nouveau titre d'Eric Chahi.
Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout, il s'agit d'un God Game, ce qu'on appelle traditionnellement un God Game, donc c'est-à-dire qu'on va incarner une entité un peu diffuse qui s'appelle le Souffle, et qui va guider une tribu d'aborigènes qui cherche à reconnecter avec ses racines. Et pour ça, il va falloir qu'elle affronte la mère nature qui va lui coller des tsunamis dans la tête, des volcans, etc., etc. Et la mécanique de jeu basique est simple. Gâchette gauche, on prend de la matière sur une carte. Gâchette droite, on la dépose ailleurs. Mmh. Donc tout le principe du jeu, c'est que tout est simulé. Donc il y a une simulation des fluides, les rivières s'écoulent, le sable s'écoule aussi, la roche arrête l'eau, la lave se solidifie, etc. Donc petit à petit et de niveau en niveau, on va modifier le décor pour permettre à cette tribu de survivre, d'accéder à certains endroits de la carte, etc., etc. C'est plutôt assez soigné visuellement et quelque part il y a une sorte de enfin faut aimer ce genre de truc hein, mais il y a une sorte de plaisir immédiat à manipuler cette matière et à changer les décors et à voir comment ça évolue parce que tout continue de la végétation s'installe petit à petit, tu peux avoir un delta qui se forme sur une plage, etc. C'est assez particulier comme jeu. Ça sortira normalement si tout se passe bien cet été en téléchargement.
Ça sortira pas en boîte
a priori? Non, pas pour l'instant en tout cas.
En téléchargement sur PC, PS3, Xbox.
Sur Xbox, c'est sûr. Après, le reste, c'est encore flou pour l'instant.
D'accord.
C'est annoncé sûr, ça peut sortir sûr, mais il peut se passer des choses. Okay. Des deals, etc., peuvent être en cours.
Mais en tout cas, c'est ça a l'air particulier, hein, c'est pas un rythme.
Non, c'est vraiment très contemplatif.
Mais ouais, c'est agréable.
Enfin, quoique, quand il y a un tsunami qui t'arrive sur la gueule et que tu vois le décompte du temps qui t'oblige à faire ton truc le plus rapidement possible, tu peux stresser quand même.
Et donc là, pour les premiums, si vous êtes premium, donc vous avez donc la vidéo, et si vous ne la regardez pas mais que vous l'écoutez, juste prenez, il est 1h22 dans le podcast. Vous avez Tiger qui est en train de se foutre à poil. Voilà, on ne sait pas pourquoi. C'est comme ça, c'est la fête.
C'est pas trop ce qu'il fait, c'est débile.
Qu'est-ce qui se passe, Tiger ? Donnez-lui un micro, je vous en prie, je veux savoir là.
Un micro plein de miasmes. J'étais mal à l'aise dans mon jean, donc je me suis remis confortablement.
Oh, c'est dégueulasse.
Et vous le verrez sur la vidéo, j'avais la baguette ouverte.
Très bien.
Donc tout est résolu maintenant.
On était dans la première activité normale. Et on est arrivé à un truc plutôt proche de la fistinière. Alors.
J'attends de voir quand même les niveaux avancés. Parce que j'ai un petit peu peur de tout ce qu'ils vont avoir inventé au niveau level design pour qu'on ait envie d'explorer, design, de faire des trucs et de résoudre des problèmes.
C'est plutôt cet été, c'est ça ?
C'est plutôt cet été, oui.
Ok. Allez, je vous propose pour conclure ce podcast d'aller extraordinairement vite. Je vais résumer quelques news importantes qu'il ne fallait pas rater. S'il y a des gens qui ont des trucs à dire, vous levez la main. S'il n'y a aucune main qui se lève, je vais à la suite. Alors. Non,
c'est
pas commencé. Il y avait donc l'Xperia Play qui sortait plutôt début avril, donc on en parlera le mois prochain. Mais d'ores et déjà, vous avez la vidéo de nos impressions avec Julo sur Gameblog, et très mitigé pour l'instant. La Nintendo 3DS, vous avez un podcast bien évidemment pour vous y référer. Nos avis, a priori, vous les connaissez.
Et un dossier géant en plus.
Et des méga dossiers. Néanmoins, ce qu'on peut rajouter, je trouve en tout cas, c'est que à l'habitude, je trouve qu'on s'habitue de plus en plus vite à la 3D et moi je rentre de mieux en mieux dedans et je stabilise mes yeux de mieux en mieux, et donc par rapport au podcast je trouve que je perçois de mieux en mieux cette 3D, et surtout à l'image de ce que disait Tiger, j'y trouve une vraie impression supplémentaire, donc j'aime bien. Il me manque pour l'instant les jeux pour m'éclater, mais l'effet je le trouve de moins en moins gadget. Voilà.
Mais tu louches.
Bah, je sais
bientôt le podcast en 3D
peut-être, bien sûr. On ne sait pas. L'iPad 2 est sorti lui aussi. Alors si on en parle, c'est parce qu'il a une énorme composante forcément jeux vidéo, puisque vous le savez, il y a plus de 60% des applications qui sont des applications de jeux vidéo.
Il est sorti le même jour.
Il est sorti le 25 mars en même temps que la Nintendo 3DS.
C'est pas un hasard.
Et a priori, il s'en est déjà vendu beaucoup plus que la 3DS dans le monde. Donc c'est à suivre de près, d'autant qu'il a une prise HDMI, on le rappelle, qui vous permet de jouer en 1080p sur votre télé, et que la carte graphique est intégrée, enfin la zone graphique de l'iPad 2 est 9 fois plus puissant que le premier iPad, qui est l'équivalent d'un iPhone 4 et qui est déjà infiniment plus puissant que ce qu'on voit en tout cas visuellement avec nos petits yeux sur la 3DS, donc quand même à suivre de près.
Et si vous avez du rab, envoyez des iPad 2 à la rédac.
Sortie officielle de Xenoblade sur Wii, ça y est, il est sorti au Japon, c'est l'un des meilleurs RPG japonais des dernières années, et donc clairement de la Wii, eh bien il devrait arriver chez nous cet été.
Normalement cet été. Nintendo dit cette année, mais ouais.
On sent que ça va être cet été.
Il est sorti en juin 2010 au Japon, je crois, si je me souviens bien. Ouais. Donc un an après, ça serait logique quelque part.
Lui, et noter que on aura le choix entre la VO, donc japonaise, sous-titrée, ou la version anglaise, et ça c'est cool.
Sous-titrée.
Et donc,
tu peux choisir
la même chose, mais donc avec des sous-titres français.
Ouais.
Super. Le séisme japonais, bien évidemment, là c'est pas drôle du tout, vous le savez, on en a de nombreuses fois fait l'écho, et que toutes nos pensées bien sûr sont à toutes les personnes qu'on connaît et à qui on envoie vraiment toutes les meilleures ondes,
et ceux qu'on ne connaît pas
et
aussi,
ceux qu'on ne connaît pas bien évidemment aussi. Vous savez aussi concernant le jeu vidéo que vous pouvez faire des dons via le PlayStation Network, que vous pouvez aussi en achetant l'application Street Fighter sur iPad et iPhone envoyer une partie de cet argent est reversée. Vous savez aussi que Sony, Capcom, Tecmo, Sega, Namco Bandai, énormément d'éditeurs et de constructeurs se sont véritablement mobilisés, Konami aussi, pour apporter leur aide, leur soutien et de l'argent pour reconstruire tout ça et aider les personnes qui en ont véritablement besoin. Donc voilà ce qu'on pouvait dire, les conséquences sur le jeu vidéo.
J'ai aussi un jeu que je conseille parce que je l'ai essayé, donc Frog minutes de Grasshopper. Mm-hmm. Tous les bénéfices de ce jeu qui coûte 0,79 centimes seront reversés à la Croix-Rouge japonaise.
Vous pouvez acheter la guitare aussi d'Akira Yamaoka, le compositeur de Silent Hill. Donc bien évidemment, le fruit de ces enchères sera reversé à la Croix-Rouge japonaise. Enfin voilà, et pour parler des conséquences, je crois qu'il est véritablement trop tôt encore pour savoir exactement.
Bah, c'est déjà un beau bordel là, au niveau des plannings. Ouais, hein. Il y a beaucoup de jeux qui ont été repoussés. Bon, certains annulés. On a vu Day of Crisis.
Z-Tide Tetsu Naitoshi.
Oui. 4.
Bah, le jeu de tremblement de
terre. Voilà. Je fume du Toshi.
Bref, donc on verra effectivement, mais ça risque de bouger beaucoup. Et puis même en termes économiques, on ne mesure pas encore les conséquences de ce que ça va donner.
Voilà. La transition est un peu maladroite, mais c'est ce qui a marqué, je suis désolé. Resident Evil, Opération Raccoon City, donc les zombies qui débarquent, qui sont de retour. Cette fois-ci, Capcom ne fait pas ce jeu en interne, mais c'est sous-traité au
Québec.
Québec, c'est au Canada.
C'est
Slant 6 Games.
Slant 6 Games,
voilà, qui en a la charge. Ce n'est pas le Resident Evil 6, c'est vraiment un jeu à part qui sera essentiellement dédié aux multijoueurs, qui a l'air quand même assez bourrin. Moi, je sais pas, mais la première vidéo ne m'a pas particulièrement rassuré.
J'ai adoré le sang qui giclait. Il y en a juste 25 litres par
frame,
par tête.
Bah, c'est Socom, hein. C'est un peu. Bah, ouais. Oui, c'est ça.
C'est
les développeurs
fait
Socom avant. Voilà. Ouais. Capcom cherchait des gens spécialistes du jeu en réseau, du multi, etc. Ouais. Ils ont visiblement trouvé.
Le visuel a l'air sympa quand même, je trouve. Moi qui suis pas forcément super fan de Resident.
Ce qui me fait peur un peu, c'est qu'apparemment ils ont été contactés il y a un tout petit peu plus d'un an et que le jeu sort à la fin de l'année.
Ouais,
donc ça sent la mission vite fait.
Ça sent le Outbreak. Voilà. Bon, on va voir, ça reprend effectivement. Ouais, mais Outbreak avait l'air beaucoup plus subtil.
Ah ouais,
bon. Ah bah là, beaucoup plus subtil.
Là, ça a l'air quand même. Bon, il y a des idées intéressantes. Hein. Il y aura trois entités différentes. Ouais. Il y aura les zombies, il y aura les mecs les méchants et puis les nouvelles unités. On jouera d'ailleurs du côté des méchants. On retrouvera certains héros comme Léon S. Kennedy qu'on pourra tuer et donc changer l'histoire canonique des Resident Evil. Bon, à suivre. Pour l'instant, on est que moyennement convaincu. Tiger, GTA V, début d'information. Alors soudainement, la toile se réveille. Qu'est-ce que c'est-il ?
Parce qu'en fait, Take-Two a organisé récemment un casting, mais on ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire que c'est resté secret. Ce qu'on savait, c'est les rôles qui étaient proposés pour les acteurs qui allaient passer ce casting.
Puis alors, il y en a certains.
Voilà. Et parmi ces rôles, il y avait une jeune fille délurée.
C'est surtout des personnages qui étaient dans GTA 4.
Attends. Un théoricien du complot. Et tous ces personnages, on a juste un prénom. Nom américain en fait. Ce qui a mis la puce à l'oreille de tout le monde, c'est que parmi tous ces personnages qui ont besoin d'une voix, il y a James Pidiston qui est en fait un pédophile notoire qui était sur la radio San Andreas, en fait sur WCTR. On pouvait écouter son émission.
C'est horrible.
Parce que lui en fait il est pour pour la légalisation en fait, pour l'amour entre hommes et enfants.
C'est horrible.
Dans GTA.
Mais il est en taule en fait dans
GTA 4.
Oui,
donc c'est-à-dire 10 ans plus tard, parce que c'est genre les années 90, début 90, San Andreas. 10 ans plus tard, sur un site internet, on peut voir en fait que James Pidiston est en prison à Bali dans GTA 4. Donc,
c'est glauque.
Donc on a donc ces propositions de casting pour incarner ces personnages. Et donc on s'imagine que c'est évidemment pour le prochain GTA. Donc ce qui laisserait spéculer au vu des personnages qu'on trouve, comme la jeune fille délurée qui voudrait devenir une star d'Hollywood, que ça se passerait plutôt dans un univers californien avec
Côte
Hollywood, ce genre de choses.
Fumble.
Tous les personnages sont vraiment orientés sexe en fait.
Oui, tout à fait. Ouais, mais c'est, on reconnaît. Ouais,
ça
c'est,
va être bien glauque le prochain.
C'est toujours ces portraits au vitriol de
GTA, carré VIP. Allez, c'est parti. Voilà. Des débiles et du cul à la cour.
Je pense que Fox News aura du grain à boudre.
Ah là, oui.
Ça, je vois d'ailleurs.
Plus proche de chez nous et dans moins longtemps, Paris Games Week 2011, il revient et cette fois-ci il se tiendra toujours à la porte des expositions de Paris Versailles, cette fois-ci les 21, 22, 23, 24 et 25 octobre 2011 bien évidemment. Voilà, on vous tiendra au courant un petit peu plus, mais c'est vrai que c'est devenu le nouveau rendez-vous français du jeu vidéo, puisqu'on le sait que le festival du jeu vidéo a pris un sacré coup derrière la tête avec l'arrivée du Paris Games Week. On suivra, on verra, parce que tout n'était pas parfait non plus dans la première édition du Paris Games Week, voir comment cette deuxième édition va se comporter et à quoi va-t-elle ressembler. Du côté des consoles, Kinect et Microsoft donc, qui annoncent 10 millions de ventes pour Kinect, ainsi que 10 millions de jeux Kinect vendus. C'était très 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 gros score, d'autant qu'il a été effectué en moins de 3 mois. Oui. C'est-à-dire que c'est quand même une première.
Leur objectif était moitié moindre que celui-ci. Hein. Ils visaient 5 millions.
Exactement. Et jamais un appareil de jeu vidéo ne s'était aussi bien vendu en aussi peu de temps.
Donc, oui. C'est un succès.
C'est un énorme succès.
Peut-être avoir des vrais gros jeux dessus, alors du coup.
Pour le 3, voilà. On espère maintenant que du coup, comme Kinect se démocratise un petit peu plus, bah, les éditeurs vont prendre le risque d'essayer des jeux un peu plus gamers. Maintenant, il va falloir que les gamers aussi suivent. Et pour ça, on a vu une news qui est passée la semaine dernière qui disait que peut-être que Microsoft avait trouvé un système qui permet de réduire quasiment à néant la latence. Mais
ils sont
quand même.
Ils sont toujours sur la même techno et ils ont commencé à implémenter ce genre de trucs. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu autant d'améliorations entre ce qu'on avait vu avant la sortie et après.
Voilà. Donc à suivre. Hein,
on sait que Forza 4 va déjà s'en servir. Ouais.
En tout cas, Kinect est en train de véritablement de s'imposer. Hein. Uncharted 3, et ouais, Uncharted 3 qui a fait reparler de lui en mars 2011 avec, ils ont dévoilé leur méchante, elle s'appelle
Catherine
Marlowe, effectivement. Elle est blonde, elle est vieille, elle a des doigts, franchement. Allez regarder, il y a la vidéo en 1080p, mais il y a aussi on vous a mis les images en haute résolution. Vous tapez Uncharted 3, la méchante, vous verrez ses doigts, mais c'est une sorcière.
Elle
est crochue, à ne plus savoir qu'en faire.
Un bon personnage.
Elle a l'air anglaise. Ouais. Elle a l'air d'être à la tête d'une société qui est là depuis très très longtemps, depuis je crois Elisabeth II ou Elisabeth Ier plutôt, parce qu'Elisabeth II elle est toujours vivante. Donc bon, plein de choses à suivre, et ce qui a quand même elle est plus toute jeune, elle nous a permis quand même de voir Nathan Drake en costard cravate.
Exactement,
ça lui va plutôt pas mal.
Ça lui allait plutôt pas mal.
Ça change, ouais.
Se faire molester d'ailleurs. Autre information intéressante et importante, Ubisoft, via un sondage qu'il a effectué aux États-Unis, a évoqué visiblement ce qui pourrait être le prix de la NGP, donc vous le savez, la future console portable de Sony qui devrait sortir à la fin de l'année normalement. Ils vont essayer de faire une sortie mondiale. Et du coup, deux versions semblent confirmées, une version 3G, une version Wi-Fi, ça c'est sûr. Mais surtout les prix, 250€ pour la version Wi-Fi, 350€ pour la version 3G, 100€ de différence, ce qui est beaucoup, mais à la fois ce qui est moins que par rapport si on compare à un iPad version Wi-Fi et un iPad version 3G, d'autant que quand même la rumeur qui voudrait qu'un abonnement 3G intégré peut-être au PlayStation Plus ou à d'autres systèmes pourrait voir le jour, ce qui permettrait de ne pas payer un abonnement supplémentaire.
C'est pas une rumeur, c'est une idée qu'on a, ça.
Ouais, non, mais non, ça a été confirmé par d'autres personnes. Enfin, il y a d'autres personnes qui ont commencé à l'évoquer. Donc, ça s'éteille un petit peu.
Alors, c'était une bonne idée.
C'était une bonne idée.
Quant à la 3D.
Battlefield 3, on en a parlé rapidement avec Fumble tout à l'heure. Yeah. La vidéo qui défonce tout, effectivement. Maintenant, à peu près tous les 15 jours, une nouvelle vidéo. Et franchement, avec le Frostbite 2.0, bah, ça envoie carrément du lourd. À suivre très, très fort.
On va vous en reparler très bientôt.
Exactement. On a pu découvrir pour la première fois en mars aussi, à la toute fin du mois, les premières images et la première vidéo du survival horror conçu par Paul Cuisset. Vous savez, Flashback, c'était lui. Le jeu s'appelle Amy. Il est dédié à la PlayStation 3, mais sur le PlayStation Network. Ici, qu'en avez-vous pensé ? Moi, j'ai été un petit peu déçu quand même, les animations.
Je t'avouerai que j'ai pas vu la vidéo, donc je vais m'empresser de le faire pour le podcast.
Moi j'étais plutôt agréablement surpris, j'en attendais pas.
L'ambiance a l'air sympa, mais quand on le compare à un Silent Hill 2 par exemple qui est sorti il y a quand même maintenant un bon petit 10 ans, je crois, c'est pas ça quoi.
Non, mais tu parles des animations, c'est vrai que c'est le truc un peu décevant dans cette vidéo, c'est les animations un peu zarbi entre le pas de course, la marche et la marche très silencieuse. Mais sinon, l'ambiance a l'air pas mal. J'ai bien aimé ce héros zombifié qui a encore une conscience humaine, cette héroïne, qui délivre une jeune fille qui a l'air aussi en état de zombification.
Et elle a besoin de Amy pour survivre, parce que Amy serait son seul antidote, en fait.
Voilà, donc ça, j'aime bien.
Ah, l'idée est bonne, ouais.
L'ambiance a l'air bonne, etc. Mais c'est vrai que ce truc d'animation est un peu bizarre.
Mais le jeu est loin d'être fini.
Il sort cette année, normalement, quand même.
Mais c'est peut-être un peu. Moi, j'ai trouvé cette vidéo un peu prématurée. Mais bon.
Probablement, ouais. Ça fait un. Mais c'est une espèce. Non, c'était pas un leak, mais c'est vraiment une scène de gameplay
filmée sur l'écran. Ouais. Bon, On va, on va suivre, hein, on connaît le pédigré de Paul Cuisset qui nous a quand même vraiment gratifié de très beaux jeux, donc on va vraiment lui faire confiance, d'autant qu'il travaille avec Eric Vienno, hein, de Lexis Numérique, sur ce titre, donc quand même deux personnes qui maîtrisent le jeu vidéo. On va attendre un petit peu plus pour se forger un avis un peu plus définitif. David Cage, aussi développeur français qui n'a pas sa langue dans sa poche, mais ça fait du bien aussi de pouvoir s'exprimer et dire ce qu'on pense. Il a parlé de l'après Heavy Rain, puisque vous savez, il n'y aura pas de Heavy Rain 2, même s'il a quand même souligné que les fameux DLC n'étaient pas totalement mis à la poubelle, que peut-être qu'ils sortent. Bon, ça a l'air d'être encore très flou, toutes ces histoires. Néanmoins, il a bien spécifié que Quantic Dream, les jeux Quantic Dream à venir, en tout cas dans un avenir plus ou moins proche, resteront exclusifs à l'univers PlayStation, et donc à la PlayStation 3.
Ou à la NGP,
ou
peut-être.
Je crois qu'il a dit PlayStation 3.
Il a dit PlayStation 3.
Dit vraiment la PlayStation 3 était la machine qui était la plus en avance. Enfin, il a vraiment été très laudatif sur la PlayStation 3.
Surtout qu'il est en bisbille avec Sony, donc forcément.
Ben, si ça s'est bien passé la première fois, il aurait tort de continuer, de pas continuer, je veux dire.
Oui, mais oui, bref.
Enfin, il s'aime bien, il
en
bien.
Business,
oui,
en business,
oui, parce que Bisbis, c'est.
Oui.
C'est
le contraire.
Voilà, donc tout se passe bien avec Sony, visiblement.
J'ai compris Bisbis, moi, pour ça.
Et son prochain jeu, il y en aurait deux apparemment, et l'un de ceux-là serait dans un univers de guerre, mais avec du narratif très fort et des choix très importants, bien plus, enfin bien moins manichéens et surtout hollywoodiens et popcorn que les Call of Duty et compagnie, c'est-à-dire bien plus faire ressentir bien plus la souffrance, les dilemmes et les choix politiques que qu'ont les guerriers sur le champ de bataille.
Et ça, c'est bien. Ouais. Est-ce que c'est ce jeu-là qui va utiliser en fait le moteur entre guillemets Heavy Rain, ou est-ce que c'est l'autre?
Le réutiliser.
Bah, ils veulent utilisé sur un des, en tout cas au moins sur un des deux projets, parce qu'il avait quand même des envies autres, notamment en multi, etc. Ce serait celui-là.
Ce serait celui-là.
Bah, très bien.
J'en achète 10.
Voilà.
Un long dimanche de fiançailles versus version David Cage. Oui, moi j'avais pas trop aimé non plus, mais bon.
Non, mais dans le cadre d'une guerre, au niveau des choix. Au niveau des choix terribles que tu peux avoir à faire à un moment donné, je pense que c'est vraiment intéressant.
Ça peut être plus intéressant en tout cas que Motherfucker JL. Même si on aime bien aussi, ça fait du bien de se défouler.
Si tu le dis.
Et puis pour conclure, mais ce n'est qu'une rumeur pour l'instant, Kojima, Metal Gear Solid 5 à l'E3 2011. Moi personnellement, j'y crois pas du tout. Je crois beaucoup plus à un Metal Gear
3, par exemple.
Oui, bah pas forcément. Je pense plus à un
Peace Walker. Sur la ligne d'arrivée.
Un Peace Walker version HD annoncé pour PS3 et Xbox, ça je le sens bien.
C'est genre
un
téléchargement
par exemple, ouais. Et puis bien sûr, je le vois pas faire à la fois la promotion de Rising qui va être là, qui va faire son plein à l'E3, et en même temps annoncer MGS5. Je trouvais que ce serait pas très bien calculé.
Dans tous les cas, il bosse sur des trucs, hein. Il arrête pas d'en tweeter.
Il y a son ogre project apparemment sur lequel il bossait encore ce matin, je le voyais sur son Twitter. Voilà, donc véritablement à suivre, mais apparemment il y aurait deux jeux à l'E3 qui serait présenté qu'on ne connaîtrait pas. Peut-être un Zoé 3.
Tu veux dire que les deux on les connaîtrait pas?
Non.
Ni l'un ni l'autre.
Non. Enfin, on les connaît pas. Il n'a pas dévoilé ce que c'était.
D'accord. Il sera pas là. Et puis c'était.
Donc on ne sait pas, à suivre. En tout cas, je parlais de Twitter. Vous savez que vous pouvez suivre bien sûr Gameblog sur son Twitter, mais il y a aussi Poufy, Raon et moi-même, Julien Chiez, sur Twitter. Vous tapez Julien Chiez ou Raon ou Poufy GB et vous pouvez nous suivre comme ça sur Twitter, mais bien sûr aussi le Twitter de Gameblog, et vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook, histoire d'être sûr de ne rien rater, car de plus en plus, on balance bien sûr des news qui sont relayées de Gameblog, mais aussi plein de coulisses. Qu'est-ce qui se passe avant les podcasts, après les podcasts, quand on est en reportage, quand on est en train de tourner une émission? Ça vous permet d'être bien plus proche de nous et de découvrir un petit peu comme ça la vie derrière le site internet gameblog.fr. Voilà, je crois que c'était très dense, 1h40 quasiment de podcast, mais c'était à l'image de ce mois de mars 2011,
ouais,
absolument
chargé,
ouais, riche de plein d'informations. On vous l'avait annoncé en début d'année, à chaque bilan on le dit, on le répète, 2011 est une année exceptionnelle pour le jeu vidéo.
Le prochain bilan du mois d'avril là, ça va être costaud aussi, hein.
Ça va pas rigoler.
Si on regarde nos plannings de reportage et de trucs, il y aura des belles choses.
C'est on est d'accord. Exact. Et puis ça va monter en puissance juste avant le 3 qui, on vous le rappelle, se déroulera début juin. Et effectivement, je regarde toujours ma montre, mais parce que je regarde en fait pas les aiguilles, mais la date.
Mon cul, il y a pas la date sur ta
si,
montre.
Si, regarde. On est le 1er avril.
D'accord.
Voilà. Maintenant, les gens savent quand.
Donc,
on
en voyant le 1er avril, tu sais que le 3 c'est en juin, donc.
Non, mais ça me permet de. Bon, ok, d'accord.
Okay,
allez, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci Fumble, merci Traz, merci Tigé. Merci Raon, merci Julo, merci Poufy, merci à vous,
merci
maman,
merci
papa.
Julien.
À la semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien et surtout jouez bien. Ciao!
Ciao, ciao!
Adieu.